dans le tempo, c'est déjà l'épisode 36. Je suis avec mon gars Daz. On y va.
Non, c'est presque retenu.
Non, c'est bien.
Non, c'est
bien.
C'est bon.
Franchement,
c'est
autre chose.
Ces lancements sont incroyables, comme d'habitude.
C'est le lancement de DLT.
De DLT pour ce que je crois va être la dernière de l'année 2022.
Oui. Alors malheureusement,
sans nous tromper.
Pour nous, oui. Et on vous souhaite avec beaucoup de retard un joyeux Noël.
Enfin même, c'était une bonne année.
Ouais.
Parce que le temps de diffusion, ce sera.
Le temps que ça arrive.
On est un peu décalé. En vrai, ça arrivera début 2023, cet épisode.
Ouais.
Mais on est fin 2022. Vous savez tout à présent. C'est quoi, on avait 4 épisodes de... Non, on avait 2-3 épisodes d'avance.
3 épisodes d'avance,
Là, on en a plus du tout.
Ouais.
Julien, tu es notre sauveur.
C'est-à-dire que si je vous avais planté ce soir, là,
ah bah, on était dans la
merde.
Discussion entre vous, quoi.
Ouais, on l'a déjà fait un peu.
Ouais, on peut le faire. Après, c'est pas... Nous, ça nous dérange pas, tu vois, on est des conteurs, des raconteurs d'histoires.
Absolument.
Je pense qu'on aurait pu le faire, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir quelqu'un avec du background.
Bah après, Daz,
pas trop vite, on verra.
De toute façon, Daz, tu le lances sur Elite Dangerous, il tient 3 heures de suite.
Oui,
monologue.
Je vois. Oui. D'ailleurs, j'en place une pour Sam à la régie qui a acheté Star Citizen. On fait tous des conneries. Voilà, lui c'est la sienne. Fin de la partie jeux vidéo.
C'est tout le monde n'est pas un pro du gaming. Tout le monde ne sait pas quel bon jeu acheter.
Oui, les gens aiment souffrir. J'ai remarqué ça. Mais ne parlons pas de jeux vidéo. Ce n'est pas le. Ça,
on tu veux le fera dire dans... qu'on parle d'autre chose dans ce podcast.
Ben, on le fera dans le gaming, notre prochain podcast.
Hey,
on
fera
en 2023.
Très bien.
Et oui.
DLG.
Mais là, on est dans DLT et on accueille qui aujourd'hui, Salman, dis-moi.
Eh bien, vous l'avez reconnu. Ou si vous ne le connaissez pas, bon, oui. Vous le présente, c'est Julien Bitoun. Bonjour Julien.
Bonsoir, merci
ça
de
va
me recevoir.
Bah, avec grand plaisir, grand plaisir. Est-ce que je présente un peu Julien?
Ah bah ça serait bien, oui.
Ouais, j'ai ta vie, ton œuvre.
Ouais, vas-y, je suis curieux de voir par où tu le prends.
Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que tu es journaliste et musicien.
Ouais.
Ta vie musicale, c'est plein de groupes, mais on pourrait parler rapidement de Jay Merrick à une époque, du Julien Bitoun Trio, groupe instrumental, Power Trio. Aujourd'hui, l'actualité, c'est Julien Bitoun and the Angels.
Bien sûr.
Avec 2 albums à votre actif, un EP.
Absolument, ouais, c'est ça. Et puis on est en train de travailler sur le 3e. Et c'est le meilleur groupe du monde.
Vraiment. Eh bien, je pense aussi. C'est pour ça qu'on te reçoit, d'ailleurs.
Non, c'est une section rythmique avec laquelle je suis bien. Ouais. Et je sais qu'on peut aller partout où je veux, qui ont une culture pas si éloignée que ça de la mienne et qui entendent ce que j'entends dans les mêmes choses.
Ouais.
Et c'est rare.
Ouais, c'est important d'être en phase avec ses pairs, quand même, quand on
Absolument.
Fait de la musique.
Ouais, c'est un langage commun.
Ouais.
Puis il faut dire qu'en plus t'as des goûts assez spécifiques en musique, ou en tout cas des passions très claires. Alors d'abord la guitare, parce que Julien est un excellent guitariste.
D'accord.
Bien connu d'ailleurs de. C'est pas le plus rapide, mais il y a le toucher, etc. Non. C'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'il a choisi des groupes, des styles genre le blues, etc. Puis il s'est dit bon c'est bon, j'ai pas besoin d'aller trop rapidement. Mais oui, tu es bien connu dans le monde de la guitare d'ailleurs.
Ah oui, pour le coup.
Ouais, tu fais des vidéos régulièrement pour Guitar Village, qui est un magasin assez réputé. T'as bossé pour Woodbrass Deluxe à une époque, tu gérais d'ailleurs le
Bien
lieu.
Sûr.
On t'a vu passer dans plein de magazines, Guitar Extreme, Guitar Part. Voilà, tu es très identifié dans le milieu. Chanteur aussi d'ailleurs, hein, dans plusieurs de tes groupes.
Par défaut.
Par défaut.
Parce que j'ai pas trouvé de bon chanteur qui avait un accent anglais qui me donnait pas envie de me creuser
dans
les tympans à coups de tison. Donc voilà, je m'y suis mis. Et puis comme disait Queneau, c'est en écrivant qu'on devient écriveron. Donc voilà, c'est en chantant que je suis devenu chanteur.
Chanteron.
Et ben.
Mais du coup, ça chante en anglais alors de ce que je comprends.
Ça essaye.
Ok. Pour quelle raison?
Alors
là, c'est le Jacques Toubon en moi qui met en avant l'exception culturelle française. Et je
deux
dis,
choses.
Mais
déjà, en termes de sonorité, c'est quelque chose qui me vient beaucoup plus naturellement. J'ai essayé de chanter en français quand j'accompagnais des chanteuses et chanteurs pour faire les chœurs, et vraiment ça sortait pas bien pour
ouais,
moi.
Ouais, t'aimes pas comment ça sonne.
Ouais, même. Enfin, j'en étais pas capable, quoi, vraiment.
D'accord. Okay.
Et puis après, même en termes d'écriture de paroles, j'ai une affection pour les couches de signification accrochées à certains mots anglophones plus que certains mots francophones. Mm-hmm. Tout simplement parce que certains mots reviennent dans tellement de chansons et même certaines formulations sont déjà associées à certaines chansons, certains artistes. c'est pour moi des couches dont je me sers consciemment dans la construction de mes propres chansons.
Puis il faut dire que t'as une culture musicale très anglo-saxonne aussi.
Absolument, bah oui, oui, bien
grand
sûr.
Grand fan de musique, on l'a pas encore précisé, mais de musique des années 60-70.
Bah t'as dit qu'il était guitariste.
Bah,
je
ouais,
me doute, non, je me doute qu'il écoute pas de la trap.
Mais... à chaque fois il bitch sur les guitaristes.
Mais non,
si
j'adore.
T'écoutes Polyphia, tu peux écouter guitariste et de la trap, tu
bien
vois.
Bien sûr.
D'accord. Par exemple, ok, bah tu vois, voilà. Voilà.
Voilà.
Voilà. Vous avez vu comment culturellement.
Il dit des conneries, hein.
Culturellement encore. Voilà, il fait du boulisme culturel.
Non, mais
ok. Ok, ok.
Mais oui, non, c'est vrai que ton grand truc, toi, c'est le rock, le blues, la country. On va en parler.
C'est le prisme. C'est-à-dire que j'écoute énormément de choses différentes et je sais que c'est une phrase détestable.
Non.
Et j'en suis tout à fait conscient.
Non, moi aussi, j'écoute plein de choses différentes.
Mais c'est vrai que il y a toujours ce prisme dans tout ce que j'écoute. C'est-à-dire que même quand je suis tombé amoureux de l'album d'Orelsan qui est sorti l'année dernière, ce qui était pas forcément mon lieu de prédilection.
Oui, mais c'est la connexion à Lançon.
Ça doit être ça.
Tu sais que Julien aurait pu être Orelsan.
Six mois après, on est né au même endroit à 6 mois près.
Ah,
donc ça aurait dû être moi, putain. Mais je sais pas chanter en français. Non, mais voilà, ce que j'entends chez lui, pour moi, ça m'évoque Rakim. Du coup, ça m'évoque Run DMC. Mm-hmm. Du coup, ça m'évoque Grandmaster Flash. Enfin, on revient toujours à
attends,
ce prisme.
Attends, du Rakim dans Orelsan.
Ouais, dans la
vache.
Ouais, parce que britannique, et pour moi les britanniques en prennent plus à Rakim que au côté Public Enemy,
ouais,
je dirais.
OK.
C'est ce que j'ai entendu en tout cas, mais il dirait sûrement le contraire, il a sûrement raison. Mais voilà, en tout cas, il y a toujours ce prisme-là qui permet de savoir où je fous les pieds quand j'écoute quelque chose de nouveau, quoi.
Ouais. Tu sais qu'il est tellement passionné de guitare, de matos, etc., qu'il a même une pédale de fuzz à son nom.
Oh. C'est vrai.
C'est vrai.
C'est une grande fierté pour moi.
La Bitoon Fuzz.
La putain de Bitoon Fuzz.
Tu peux acheter demain une Bitoon Fuzz et mettre dans ta guitare, tu vois, et faire avoir un son saturé, tu vois.
Ah ouais, comment ça s'est fait, ça?
Bah, en fait, parce que, je connais depuis un petit moment Alexandre, qui est le fondateur de la marque française Anna Sounds, qui est une marque qui a connu une success story absolument impressionnante. Et en gros, j'avais une pédale fétiche, mais qui était en plastoc tout pourri, et je me sentais pas du tout de l'amener sur scène parce que j'en avais déjà cassé pas mal des comme ça. Et du coup, je lui ai demandé de me faire une version proper, enfin bien, quoi. Et quitte à la refaire, on a un peu revu le circuit, il m'a mis plus de trucs dedans. Et puis, j'ai voulu l'appeler Bitoon Fuzz, un peu comme un cheval de Troie. Mmh. Genre, les gens voient le nom, ils se disent c'est qui, c'est Energumène. Et puis, avec un peu de chance, il y en a un qui est tombé sur ma musique au Japon à cause de ça.
Mais il faut dire que la gueule de la pédale, en plus, donne envie de l'acheter. C'est comme un biscuit, un peu, tu sais, autour.
Ah ouais?
Ouais.
Avec un bout croqué.
Avec un bout croqué. C'est complètement délirant. Bon, il organise, il fait tellement de trucs, c'est difficile de tout résumer. Il organise même un festival autour de la guitare
aussi,
le Guitar Fest, il a un podcast Guitar Obsession, enfin bon, plein de choses. Et en parallèle de tout ça, parce que c'est qu'une partie de ses activités,
ouais.
Il a une activité plus journalistique, dans le sens où tu donnais des cours, par exemple à Sciences Po, des cours
absolument,
d'histoire du rock,
ouais.
Bon, plein de choses. Et ce qui est bien, c'est que c'est un véritable conteur. Et on va parler de ses musiques. Années 60, années 70, blues, rock, country. J'ai envie de parler de country parce qu'on parle jamais de country, Dan. Mm-hmm.
Alors moi, j'en parle tout le temps.
C'est vrai?
Ouais.
Je te crois pas.
Belle tentative.
Non, et puis,
beaucoup de country quand même à un moment donné.
Ce qui est intéressant autour de ces genres, c'est d'interroger d'une part leur pertinence encore aujourd'hui. Pourquoi c'est intéressant? C'est ce qu'on va faire dans une première partie. Pourquoi t'es passionné par ces musiques?
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'elles peuvent encore véhiculer aujourd'hui? En quoi elles sont pertinentes encore aujourd'hui? Et puis dans un deuxième temps, parler plus de préservation, parce que t'as même été commissaire d'une exposition pour les 70 ans de la Les Paul, qui a une guitare mythique, la Les Paul de chez Gibson.
Même moi, je connais.
Bah oui. Et donc on sent vraiment qu'il y a aussi un désir de transmettre un patrimoine, de
bien
préserver,
sûr,
etc. Et ça, j'aimerais qu'on en parle aussi.
Même pas un désir, c'est un besoin.
Ouais.
J'ai envie et j'ai besoin que les gens comprennent ce qui m'enthousiasme dans les musiques que j'écoute, qu'ils comprennent que putain, si machin a produit cet album en 76, c'est important. Parce que l'année d'avant, il avait aussi produit celui-là avec le truc au pedal steel et que, enfin, voilà, c'est en transmettant ces choses-là, enfin, Je le crois, en tout cas, je me fais peut-être des grandes illusions là-dessus, mais je crois que c'est en transmettant ces choses-là que on écoute les choses d'une façon différente, ouais. Et que du coup, on a envie de découvrir d'autres choses. Enfin, si je m'étais pas intéressé à l'histoire des Beatles, j'aurais jamais découvert un groupe comme Badfinger, par exemple, qui était le premier, enfin un des premiers groupes signés sur le label des Beatles, Apple. Mm-hmm. D'ailleurs, pour la petite histoire, les Beatles avaient Apple avant Apple, et il y a eu un procès, ouais. Qui s'est soldé par Apple, la boîte d'informatique, a juré de ne jamais se lancer dans les produits musicaux.
Lol.
C'est ce que ça a donné. Oups. Mais voilà, Badfinger, qui est un groupe absolument fabuleux, mais qu'on ne connaît que si on explore un peu, parce que c'est un groupe. Qu'on a entendu sans savoir que c'était eux, par exemple My Baby Blue, qui est le titre de fin de voilà
du Grand Bleu.
Presque. Non, cette série magnifique Breaking Bad. Ah, la okay. Scène de fin de Breaking Bad, c'est un titre entier de Badfinger.
Et on s'écoute un extrait de Baby Blue pour avoir
un grand plaisir.
Allez,
vas-y.
C'est parti, je lance ça. C'est une grande chance qu'on a maintenant grâce à Daz
de se faire démonétiser les vidéos.
J'avance un tout petit peu pour le refrain peut-être.
Trop tard, t'es sur le deuxième couplet.
Merde, c'est vrai.
Et que je connais
ça
pas
ressemblait
le
morceau. Ça ressemblait à un
refrain. Ça ressemblait pas, en tout cas ça avait varié par rapport à la
vraie. Non, et eux, pour la petite histoire, les journalistes croyaient que c'était les Beatles sous un pseudo.
Ouais.
Parce
il y a
que,
clairement son commun.
En termes de songwriting, en termes de même d'enregistrement, il y a un truc. Et effectivement, moi...
Les harmonies vocales.
Mais grave. Ouais. Moi, étant en chien de Beatles, après avoir épuisé tous leurs albums, voilà, j'ai trouvé là-dedans... mais avec une sensibilité propre, plus de riffs un peu gras... une écriture spécifique, une histoire tragique qui va avec, enfin tout est parfait quoi.
T'as vu comme il y a même à peine besoin de lancer.
Ouais, mais c'est cool.
La machine Bitoon.
Non mais c'est très cool.
Non mais voilà, tout ça pour dire c'est en sachant d'où toutes ces musiques viennent et en connaissant quelques noms que on acquiert l'envie de tout explorer. Mmh. Et en fait mon but n'est pas d'être une encyclopédie ambulante. Ça m'intéresse pas. Il y a Wikipédia qui fait très bien ce travail-là. J'ai pas besoin de connaître la date de sortie de chaque album et ou même le label de sortie si c'est pas un truc genre Motown ou Stax qui fait sens. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire les liens. Mm-hmm. C'est de savoir que un tel qui jouait dans tel groupe a aussi joué. Par exemple, c'est les mecs de Badfinger, justement, qu'on entend à la guitare acoustique derrière George Harrison pour All Things Must Pass. Okay. Parce que production Phil Spector à l'époque, Phil Spector qui considérait que plus on met d'instruments, mieux ça sonne. Mm-hmm. Et du coup, 5 ou 6 couches de guitare acoustique, et c'était les gars de Badfinger qui les jouaient en live. Mm-hmm. Avec Peter Frampton qui était aussi dans le coin.
Ah ouais, ok.
Tant qu'à faire. Bah, quand t'es George Harrison, tu peux demander.
Tu peux te permettre de ramener des copains.
Avec Phil Collins et Ringo Starr à la batterie.
T'as vu comment on apprend plein de choses?
Mais c'est bien cet album, c'est important. C'est l'album de la frustration de toutes les chansons qu'il a pas pu sortir sur les albums des Beatles. Donc genre.
J'ai jamais écouté, je pense, l'album de George Harrison.
C'est trop trop beau. Et le remaster 2020 est intéressant.
Okay.
C'est une version déspectorisée.
Okay.
Donc avec moins
parce
de reverb.
Sound.
Ouais, c'est ça. Ouais. Un peu moins nuageux.
Ouais. Ce qu'on va faire, c'est rentrons dans cette première partie. On disait, tu es passionné de ces musiques. Pourtant, t'as 39 ans, donc c'était pas une musique que t'as connue, entre guillemets, dans ta jeunesse.
Bien sûr.
Tu vas nous parler de ça.
Indirectement, si, ouais. Parce que j'ai grandi quand même à l'époque de Nirvana, des Guns.
Tu y vois une filiation directe?
Oui, c'est de la musique rock à guitare.
Ouais.
C'est de la musique de songwriter.
Est-ce que c'est justement le lien que tu fais aussi? Parce que j'ai fait de manière un peu vulgaire comme ça, tu vois, le package blues, country, rock. Mm-hmm. mine de rien, c'est un peu de sens, peut-être, de les rassembler aussi. Est-ce qu'il y a du commun? Il y a...
C'est la même chose.
Ouais.
C'est...
Pourquoi?
Enfin, c'est le même dessin avec du coloriage différent dedans. Mais c'est que des musiques d'origine blues de toute façon. Mm-hmm. Le tronc de tout ça, c'est la musique noire américaine des années 20 et 30, voire même des années 10. Enfin, c'est de là que tout ça vient, et c'est ça qui est passionnant aussi. Il y a une compilation qui est hyper intéressante là-dessus. Alors d'habitude j'aime pas les compilations, mais celle-là a une valeur historique qui est importante, qui s'appelle de mémoire The Anthology of American Folk Music, okay. Quelque chose comme ça, qui a été compilé par un mec qui s'appelle Harry Smith, qui est un américain, qui était un collectionneur de 78 tours. Donc ces galettes hyper fragiles en argile pré-vinyle, sur lesquelles sortaient ce qu'on appelait à l'époque, le terme est horrible, les disques de race.
Okay.
Donc disques enregistrés par des noirs pour un public noir, qui étaient évidemment des tirages moindres, mm-hmm. puisque les noirs avaient un pouvoir d'achat moindre que les blancs à l'époque, et donc des petits tirages comme ça, sur des labels souvent obscurs et locaux. Des mecs qui chargeaient les disques à l'arrière du pick-up truck et qui allaient voir les radios et les disquaires locaux pour en vendre. Sam Phillips de Sun dans les années 50, c'était ça au départ. Les premiers albums d'Elvis, c'était vraiment genre tiens bah écoute ça, j'ai un gars, tu vas voir, tu peux le passer dans ton émission, etc. Et vraiment cette compilation de Harry Smith, donc c'est des titres uniquement datant des années 20-30 de musique rurale. C'est-à-dire que le critère, c'était des musiciens qui n'avaient pas été enregistrés par ailleurs, ou peu, et on trouve, c'est classé par thème, donc t'as musique religieuse, parce que bah, le gospel fait partie de ce mélange-là aussi, musique, comment dire, j'allais dire païenne, mais musique séculaire, profane, merci. Ouais. Et en fait, t'as 4 ou 5 CD comme ça, et c'est que des pépites.
Mais en termes de rendu sonore, parce que si c'est à l'ancienne...
Ah, t'as des graviers.
Ah oui.
T'as, okay. t'as les graviers qui vont avec, oui, absolument.
Ouais. Donc c'est du mono, c'est crado...
Ah oui, ouais. T'inquiète.
D'accord.
Mais justement, c'est ça qui est fabuleux. Alors t'as quelques artistes connus, entre guillemets, comme Blind Willie Johnson, comme Soundhouse, tous ces artistes de Delta Blues pré-Robert Johnson, parce que on connaît bien Robert Johnson, ou en tout cas on connaît son nom, mais c'était en fait déjà la fin du Delta Blues et le début de la transition vers le Chicago Blues. Mais tous ces artistes de vraiment de campagne, qui s'accompagnaient au banjo ou à la guitare, et dont on sait pas d'ailleurs pour certains à quoi ils ressemblaient. On a quelques photos un peu dégueulasses, mais des fois c'est même pas la même personne sur les deux photos où c'est censé être eux. Robert Johnson, je vous rappelle qu'il y a 3 photos qui existent, dont une qui a été authentifiée il y a 5 ou 6 ans.
Okay.
Donc c'est pour moi, et le son fait partie de ça. Il y a un mystère qui entoure ces musiques là que je trouve fabuleux. Il y a un côté d'ailleurs non racisé que je trouve passionnant, parce que quand on écoute le blues des années 50 ou 60, on a clairement une sécession de production entre la musique noire et la musique blanche. La musique blanche devient plus propre, plus produite avec plus de budget, tout simplement, alors que la musique noire, on se dirige vers la soul, vers la funk, enfin la soul qui va évoluer vers la funk, et évidemment les blancs essayent de refaire ça, mais ça devient autre chose. À cette époque-là, vraiment, c'est mélangé de façon complètement indifférenciée,
ouais, on distingue pas les deux, hein.
Et indifférenciable. Et je trouve ça fascinant, parce que tout ce qui a été inventé après ça, c'est des étiquettes a posteriori qui n'ont pas lieu d'être. Ce qu'on appelle rock and roll, c'était déjà une musique que faisaient les noirs dans les années 40, qui a été reprise par les blancs en 54, et c'est à partir du moment où les blancs s'en sont emparés que c'est devenu le rock and roll. Mais le rock and roll, c'était une danse noire à l'origine. Si on prend Sister Rosetta Tharpe, qui est une artiste d'une importance colossale, et je pourrais jamais surestimer l'importance de Rosetta Tharpe en tant que guitariste, en tant que chanteuse, en tant que compositrice, en tant que performeuse, en tant que pionnière femme lesbienne noire dans le music business. Si on prend donc Sister Rosetta Tharpe, elle faisait déjà de la musique qu'on qualifiera de rock and roll quand les Blancs s'en empareront 4 ou 5 ans plus tard. Pareil pour Rocket 88, qui est de Jackie Branson, qui est un des premiers albums de rock connus. Bah, c'était des musiciens noirs qui voulaient faire de la soul, mais vu que l'un d'entre eux avait un ampli cassé, bah ça a fait un son rock. Et c'est
les premières traces de saturation.
Ouais, exactement. Ouais. C'est fascinant. Mmh. Et cette compilation vraiment me tient à cœur parce que c'est aussi proche qu'on pourra se rapprocher des racines de la chose. Après ça, ça devient plus compliqué de s'y retrouver.
Est-ce que on peut d'ailleurs établir une forme, si ce n'est d'arbre généalogique, mais de parce que là on a parlé du blues, du rock, on connaît un peu plus cette filiation. Comment se place la country dans tout ça? On a souvent le cliché, mais moi je l'avoue, j'ai en partie ce cliché de se dire en gros la country c'est le pendant blanc de toutes ces musiques d'une certaine manière. C'est pas vrai.
Bah, ou à un moitié. Peu quand même.
Si c'est vrai en.
Mais ça se mélange, c'est ça que je veux dire.
C'est vrai en termes de marketing.
Ouais.
C'est pas vrai en termes de musique.
Ouais.
C'est-à-dire que musicalement, country et blues, c'est la même chose.
Ah ouais.
C'est-à-dire que ça peut être joué avec des sensibilités différentes, mais les chansons n'ont pas de grosses différences entre elles. Mm-hmm. Si on prend Hank Williams par exemple, qui est un peu le saint-père de la country et
qui un artiste, vous avez dédié un EP avec
absolument
avec Julian Pitou and the Angels. Ouais.
Absolument, parce que il est important.
Ouais.
C'est un artiste dont les chansons ont été reprises par tout le monde, de Nick Cave à Elvis Costello, en passant par Johnny Cash. Enfin, c'est large, c'est très très large. Et Hank Williams, par exemple, la moitié de ses chansons se termine par blues, Love Sick Blues, Long Gone Lonesome Blues, etc. Donc la distinction est vraiment pas évidente. Country music, c'est la musique de la campagne, donc par définition, les Noirs qui travaillaient dans le sud des États-Unis vivaient à la campagne, donc leur musique, dans le sens le plus pur du terme, et country. Tout ça, en fait, c'est
ça,
des...
Ça a vachement évolué, ça, parce que...
Bien sûr.
Pour moi, tu dis country, je pense rodéo, cowboy, pick-up...
Absolument.
Banjo, grattoir à linge, là, enfin, tu vois...
Mais ce qui est intéressant, justement, ouais, c'est que le banjo, c'est un instrument d'origine africaine. Donc, il y a un mélange qui est très difficile à séparer. Et par rapport à ça, en fait, c'est juste des couleurs qui ont été données et une séparation qui s'est faite dans les années 50 à peu près, à un moment où les deux marchés se sont séparés, où on a eu un marché de musique blanche et un marché de musique noire, tout simplement au moment où la musique est devenue profitable. La musique enregistrée est devenue profitable. Et donc, on a des artistes comme la première génération des countrymen rock and roll que sont Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lewis. Tout ça, c'est des artistes où en fait, c'est la première génération de rock and roll qu'on appelait rockabilly à l'époque. Entre parenthèses, rockabilly, c'est un mélange de rock and roll qui était donc une danse de noir et hillbilly qui veut dire bouseux, qui était une façon péjorative de parler des blancs dans les campagnes. Donc rockabilly, c'est revendiquer ce côté bouseux et ce mélange des couleurs dès le terme même. Mais si on prend donc tous les artistes de cette première vague, ils sont un mélange de ces deux tendances que sont le blues, le gospel et le country. Et selon les artistes, on les a à des dosages différents. Johnny Cash est plus country que blues. Elvis est plus gospel que country. Jerry Lee Lewis est quelque part dans sa planète. mais ces artistes-là, en fait, avaient déjà ces trois couleurs-là. Et c'est de toute façon, l'histoire du rock est une histoire de mélange successif de tendances et d'assimilation successive de tendances et d'emprunts et on dirait à l'heure actuelle de comment dire,
de créolisation,
d'appropriation culturelle plus ou moins dégueulasse, mais qui en fait ont donné des trucs géniaux.
Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit peu comme
ça? Bien sûr, avec
Williams.
Plaisir.
Est-ce qu'il y a un morceau que tu apprécies en particulier? Donc on le disait, pionnier country, figure importante.
Il y a un titre si les gens connaissent pas, I'm So Lonesome I Could Cry, qui est un titre à se pendre tellement il est beau.
C'est parti.
up a will. He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low.
Je sens que c'est cadencé comme le trot d'un cheval.
C'est le train.
Ouais, c'est ça. Hein.
Toute la musique du sud américain vient du train.
Ah ouais, vraiment.
C'est vraiment la culture du train. L'harmonica, c'est le sifflet du train. tout vient de là. Et d'ailleurs, c'est une version de merde que tu viens de choisir. Puisque
il
y a des cordes en
plus
qui n'étaient pas là.
Ouais.
Et à gauche, il y a un petit piano à la con qui n'était pas là à l'origine non plus.
Ah bah bravo, tu vois.
Non, mais c'est intéressant, justement. Parce que là, les arrangements le font pencher du côté country plus arrangé à la Ray Charles, deuxième période.
Est-ce que ça serait plus celle-là?
Ah bah voilà.
Bah du coup, j'ai l'impression qu'il y a moins de trucs.
Ah bah oui.
Là, il y a juste le pedal steel et un peu de gratte.
Mais c'est beaucoup plus dépouillé.
Là, c'est plus beau.
C'est un peu la version Wu-Tang, un peu. Du
coup. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est sec. Hein. Ah,
ouais, j'ai un peu de gratte. Bon, Julien.
Lap steel.
C'est vrai.
En accordage hawaïen à l'époque.
Ouais, on sent avec la variation de ton là.
C'est ça.
Ouais.
C'était la grande mode de la musique hawaïenne à l'époque. Ouais. Encore une appropriation culturelle.
Bon, tu sais, on a toujours peur des droits sur YouTube.
Bon, bah, c'est déjà mort, là.
Mais... c'est déjà mort. Non, mais démonétisé, on accepte.
Ouais.
Par contre,
ah oui, striker, c'est chiant.
Striker, c'est relou. Ouais. Ouais.
Okay. Ok.
Est-ce que t'as parlé ensuite d'une première vague, rock'n'roll, mais qui s'inscrit quand même dans la country? Tu parlais de Jerry Lewis,
ouais.
Rockabilly. Quelle figure ressort le plus?
Ce qu'on appelle le rockabilly, c'est vraiment cette toute première époque, l'époque de qu'on considère généralement comme la naissance du rock, qui en gros est de 54 à 58. C'est une période très courte, mais très intense, où on a en gros toutes les productions des disques Sun. Donc Elvis, Carl Perkins, qui est l'auteur de Blue Suede Shoes, Jerry Lee Lewis, dont je parlais tout à l'heure, Howlin' Wolf, Chuck Berry, tous ces artistes-là, Johnny Cash. Enfin, c'est vraiment la découverte de ce style-là, et c'est intéressant parce que encore une fois, c'est assez roots. Mmh. On est dans une musique qui est loin des caricatures qui deviendront après. Mmh. Je mets la fin en 58, alors parce que certains meurent à ce moment-là. C'est en général dans les premières périodes, c'est des gens qui meurent jeunes. Hank Williams, le premier à 29 ans, un 1er janvier à l'arrière d'une Cadillac en chemin pour un gig, okay. Ce qui est quand même assez rock comme mort. mais de manière générale, c'est des albums très dépouillés. Johnny Cash, à la première époque, il n'y a pas de batterie. Il coince un billet d'$1 dans les cordes de sa guitare pour faire le timbre de la caisse claire. Et il joue de l'acoustique sans fretter de notes, juste pour avoir le côté percussif qu'il aurait eu avec un batteur. Donc on est vraiment dans du bricolage de bouseux, et c'est ça qui est beau, parce qu'il y a un certain enthousiasme de cette naïveté. Qui retrouveront pas de cette même manière ailleurs.
Du coup, c'est la contrainte qui crée l'art un petit peu.
Toujours.
Ouais. Mais
de la même manière que quand les Britanniques se sont emparés de cette musique-là, c'était la mode de ce qu'on appelait le skiffle, qui était une musique qui se jouait avec des instruments de bricolage. La contrebassine, des guitares toutes pourries, inaccordables. C'est le groupe, enfin le style par lesquels ont commencé les Beatles, les Who, Jimmy Page. Tous faisaient du skiffle à l'origine, et c'était un style qui reprenait du Delta Blues, mais avec des codes britanniques. C'est ce qu'on retrouvera dans le punk en 77, avec le côté tu montes un groupe d'abord et t'apprends à jouer de ton instrument ensuite. Ce qu'on retrouvera dans le grunge en 91, avec arrêtez avec vos solos, on s'en fout. Enfin, régulièrement, on a des retours comme ça au sens original du rock, et qui pour moi est vraiment un credo. C'est d'abord qu'est-ce que t'as à dire, et ensuite tu trouves le moyen de le dire. Mmh. Mais le plus important, c'est d'avoir quelque chose à dire, c'est pas d'avoir les moyens de dire tout et n'importe quoi.
T'évoquais Carl Perkins tout à l'heure, Blue Suit Shoes.
Avec plaisir. Hein.
Allez, un petit extrait.
Ouais, c'est sûr, on va se faire shooter. Two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you
my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna.
Mais ça, c'est...
Si t'écoutes là les mises en place, ils sont à la ramasse. J'adore. C'est, tu sais, ils ont pas regridé sous Pro Tools, quoi. Là,
y a pas de quantification, vraiment... tu veux dire?
Non, c'est ça. Il y a pas une caisse claire qui est en même temps que la guitare, et pourtant ça marche. Excuse-moi.
Ma question, c'est du coup ce morceau-là. Enfin, pour moi, Blue Sweat Shoes, c'était Elvis Presley. Du coup, c'est
il l'a repris ensuite. C'est
bien sûr.
C'est Elvis qui a repris ça.
Elvis, de toute façon, n'a pas composé de musique, ou presque pas.
D'accord.
Tous les succès d'Elvis, c'est des auteurs extérieurs. Et ça n'enlève rien à la grandeur d'Elvis. D'ailleurs, c'est aussi ça qu'on apprend quand on se penche sur l'histoire de la musique. C'est qu'il y a une époque où compositeur, c'était un métier à part. Mmh. C'était des gens qui allaient travailler de 9h à 17h dans une petite pièce avec un piano et qui sortaient avec 3 chansons par jour. Et des chansons magnifiques ont été écrites de cette manière-là. Mmh. C'est que à partir des Beatles, et des années 60 qu'on a commencé à associer chanter une chanson de façon convaincue et le fait de l'avoir écrite. Ouais. Mais en fait, tu peux chanter une chanson mieux que la personne qui l'a écrite. Il n'y a pas de raison.
Ouais.
Et justement, Perkins en est un bon exemple parce que finalement, a posteriori, à côté de la version d'Elvis, sa version est un peu plomb-plomb et hyper au fond, alors que celle d'Elvis est nerveuse et ça pue le sexe, alors que celle de Perkins, c'est pas nécessairement le cas.
Là, ce qu'on vient d'écouter, c'est fin 50, d'après ce que je vois.
C'est milieu 50, ouais.
Milieu 50. Toi, c'est parce qu'on évoquait tout à l'heure les années 60-70 plutôt, c'est pionnier, c'est la période que tu préfères. Tu préfères ce qui est encore après, sans hiérarchie. Enfin, tu vois, c'est de manière un peu schématique, non, ouais, évidemment. Mais
j'ai pas de préférence. C'est juste que naturellement, je réécoute plus volontiers les trucs les plus déshabillés.
Ouais.
C'est peut-être l'âge, mais effectivement, quand j'ai envie d'écouter de la musique dans la voiture avec mes petits, en général, c'est plus Hank Williams que AC/DC qui vient. Alors que c'est grâce à AC/DC que ma vie a tourné vers la musique, et ça reste encore quelque chose que j'adore et que je tiens à transmettre à mes enfants. Mais c'est vrai que c'est il y a une évidence de cette musique-là qui fait que il y a un côté l'eau est plus pure quand on se rapproche de la source, et du coup plus désaltérante aussi quand on a besoin d'écouter de la musique, et je pense aussi que j'ai toujours ce côté à vouloir défendre la veuve et l'opprimé, et à défendre des artistes qui sont pas forcément aussi connus, ou en tout cas dont on ne parle pas forcément assez. Vous avez pas besoin de moi pour comprendre que les Beatles ou les Rolling Stones, c'est excellent. Mm-hmm. Même les Who, je pense que vous vous êtes débrouillé pour les trouver tout seul. Mm-hmm. Alors que forcer les gens à écouter Hank Williams ou Rosetta Tharpe ou même Howlin' Wolf ou Muddy Waters, c'est plus ma mission, parce que c'est pas des choses que les gens feront peut-être de prime abord.
Qu'est-ce que c'est d'ailleurs, Daz, si t'as un avis là-dessus, tu me diras. Mm-hmm. En quoi ces musiques encore aujourd'hui sont pertinentes? Non pas dans le sens, c'est parce que c'est de la bonne musique, c'est de la musique qu'on aime écouter, etc. Ça, c'est une chose, mais est-ce que on retrouve encore un héritage de ces musiques aujourd'hui, d'une part, voire est-ce que un revival ou un retour, est-ce que, enfin, tu vois, quel sens ça peut avoir d'écouter encore ces musiques aujourd'hui, d'y être attaché, et est-ce qu'on espère aussi que ça revienne d'une certaine manière, ou?
Alors, que ça revienne, moi, je me méfie toujours.
Ouais.
Parce que j'ai horreur de la musique comme déguisement.
Ouais.
Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. J'ai horreur du côté je porte un costume de 1934 avec une guitare de 37 et du coup je vais avoir l'esprit de l'époque. Mmh. Pour moi, les héritiers du Delta Blues à l'heure actuelle, c'est Beyoncé, par exemple.
Okay.
L'album Lemonade, je sais pas si vous avez vu le film qui est associé à Lemonade, où elle est dans une grande mansion coloniale, enfin ces grandes
sur les plantations
et... voilà exactement où elle est habillée en maîtresse de plantation et il y a tout cet héritage là dans cet album. On est dans l'héritage gospel de cette époque-là. Mmh. On est dans des références au blues plus ou moins indirectes, notamment par Jack White qui est en featuring sur un titre. Donc pour moi l'important c'est que ces musiques là restent vivantes à travers leur réappropriation par des musiciens actuels. Mmh. Ça m'intéresse pas de voir quelqu'un qui fait la même chose que en 1935 cosplay, ouais. Parce que il a pas vécu la Grande Dépression, parce que il est pas né dans l'Arkansas sur un lopin de terre sans eau courante, enfin voilà. Donc ça m'intéresse pas de ouais, le côté cosplay effectivement ne m'intéresse pas.
Et pourtant toi tu es capable de sortir un album de reprise, je crois que c'est l'album Chicken Waffle, je suis pas sûr.
Absolument.
Donc c'est
mais pas justement, mais il se déguise pas.
C'est voilà.
Ouais, c'est ça la différence.
C'est fait c'est que en fait ça me tombe bien que tu m'en parles parce que c'était une démarche vraiment hyper consciente. Mmh. C'était prendre que des titres où à l'origine il n'y avait que de la guitare et du chant et de les adapter en trio. Donc vraiment le but c'était, alors j'ai tendance à dire que c'est du reverse engineering de Led Zeppelin. C'est-à-dire que Led Zeppelin, en gros, ils piquaient des trucs du Delta Blues et ils en faisaient des trucs géniaux. Mm-hmm. Encore une fois, vous avez pas besoin de moi. En tout cas, jusqu'à House Without the Holy, c'est fabuleux. Physical Graffiti est très bien aussi, cela dit en passant. Même présence. Bref. Donc mon idée, c'était d'écouter ces titres-là avec dans l'idée d'en ressortir ce qui deviendrait un riff. Et du coup, de les adapter à une structure plus rock 70s avec un son plus rock 2020, enfin 2015 en l'occurrence, le tout joué en groupe, enregistré sur bande avec l'énergie du moment et chanté même en live avec le groupe et enfin avec ce côté roots, mais pas roots pas pour être roots mm-hmm. pour qu'il se passe un truc entre les musiciens et pour donner envie aux gens de revenir à ces morceaux et d'écouter ce que ça donnait en vrai.
Ouais, écoutez un extrait quand même.
Avec grand plaisir.
De quel morceau tu es particulièrement fier sur l'album?
Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Ouais. Et bah disons Pony Blues, tiens,
et bah,
par exemple.
C'est un de ceux que j'avais retenu. Moi j'ai un fait pour Pony Blues et pour John the Revelator.
Bah Pony Blues est bien parce et que bah, justement ouais. On entend bien, c'est un morceau de Soundhouse, enfin c'est la version de Soundhouse dont je me suis mmh. inspiré à l'origine, parce que pareil c'est des on peut revenir sur la notion de songwriting, enfin d'auteur d'une chanson par rapport à ce qu'on disait sur Elvis tout à l'heure. À l'époque, ils se piquaient tous les chansons les uns les autres, et vu que c'était de la tradition orale, en fait, il n'y avait pas de notion d'auteur de chanson. Chacun prenait des chansons, ouais. se les appropriait, rajoutait ses couplets. Donc la version de Soundhouse de Pony Blues, il y a un moment, mais c'est genre pendant 4 secondes, où il fait ce riff. Et j'ai trouvé ça tellement enthousiasmant que j'en ai fait tout le morceau.
Eh ben on écoute ça. C'était avec le Julien Bitoun Trio à l'époque ?
Absolument.
Allez, c'est parti. Led Zepp, il est là aussi, hein.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant dans cette musique, c'est que j'ai essayé de respecter aussi le côté bordel des structures d'origine. Mmh. Parce qu'en fait, vu qu'il s'accompagnait tout seul, il y a plein de mesures impaires, il mmh. y a plein de bordel de mise en place à la con. Et typiquement, c'est une musique qui mérite de prendre le temps. Parce que souvent, c'est des structures à un seul accord. Enfin, pour cet album, j'ai souhaité aussi garder ce côté-là, potentiellement ennuyeux, du côté un seul accord, parce que en fait la structure à 12 mesures du blues, les trois accords qu'on connaît, c'est un truc qui n'apparaît que dans les années fin 30, début 40. Donc avant ça, c'était beaucoup de structures à un seul accord ou deux accords, et ça prend un sens complètement différent sur Nobody's Fault But Mine que tu citais tout à l'heure. Ou non, d'ailleurs non, mais non, tu le citeras.
Mais tu le cites maintenant.
Voilà, que je cite maintenant. On a choisi une ambiance presque blues touareg malien, mm-hmm. parce que dans la musique malienne, il y a un côté trance à un seul accord qui va très bien avec le blues de cette époque-là aussi.
T'as quel rapport, toi, à ces musiques? C'est un truc que tu observes de loin? T'as l'impression d'entendre un héritage parfois musical de ces musiques encore aujourd'hui dans les trucs que t'aimes?
Ouais, en fait, pour moi, c'est ce que je qualifie de la musique de mon daron.
Ouais.
Non, mais voilà, donc moi, des fois, dans une de mes playlists, j'ai des groupes kényans absolument improbables, tu vois, parce que j'écoutais ça quand j'étais petit avec le daron dans la voiture, tu vois, donc tout ce qui est blues, etc. C'est des choses qui pour moi, me rappelle mon enfance, mm-hmm. mais c'est pas forcément des sonorités que je cherche. Mm-hmm. Moi, les sonorités que je suis plus en recherche aujourd'hui, c'est parce que je suis arrivé vraiment à la musique avec le hip-hop, et que mm-hmm. je me retrouve à écouter beaucoup de soul, beaucoup de funk, parce que c'est ce qui avait été repris, et qu'effectivement, le blues n'a pas été samplé très fort,
bien sûr,
par les artistes contemporains, tu vois. Mais si tous les rappeurs s'étaient mis à sampler du Muddy Waters, en fait, j'écouterais du Muddy Waters aujourd'hui, je pense. Que c'est vraiment...
C'est un des intérêts aussi de ces musiques, que non seulement ça permet de créer du lien entre les genres musicaux eux-mêmes, et de voir des filiations, etc., mais aussi au sein des auditeurs, un lien générationnel, un héritage, quelque chose qu'on se transmet, comme Daz parle de la musique de son daron, quoi. Enfin,
bien sûr.
Ouais. C'est un truc auquel t'es sensible, ça aussi?
Ah bah évidemment, je suis papa depuis 5 ans bientôt, donc oui, c'est un truc qui me touche profondément. Même avant d'être papa, j'avais besoin de transmettre la musique à tout le monde, et je tiens à défendre le fait que cette musique-là n'est pas une musique de musée. Alors, ça paraît paradoxal puisque, comme tu disais, j'ai été commissaire pour une exposition, mais c'est en tout cas pas que une musique de musée.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est une base qui a donné tellement de choses différentes que c'est hyper facile de trouver des traces de ça dans tout ce qu'on entend,
oui,
à l'heure actuelle.
Bien sûr.
Et c'est pour ça, c'est en ça que pour moi il y a un côté qui facilite effectivement l'échange générationnel. J'ai aucun mal à comprendre la musique actuelle parce que je connais ce prisme-là. Mmh. Et alors après, évidemment, il y a des trucs qui me parlent plus ou moins, mais je suis pas du tout. En tout cas, on l'est tous, je pense, mais j'essaye de faire taire mon vieux con intérieur le plus fort possible.
On en a tout ça,
voire
hein.
même de le bâillonner et de l'enfermer dans la cave, parce que effectivement, il y a des trucs qui me touchent pas, mais de la même manière que dans les années 60, il y avait un sacré paquet de merde aussi. Il se trouve que le temps a fait le tri,
ouais.
et donc forcément, a posteriori, on a l'impression qu'il y avait que des tueries. Mais pour
c'est ça,
Beatles,
c'est ça qui est marrant justement, ouais, parce que pour moi, enfin, quand beaucoup donc ne jurent que par les Beatles par exemple, alors qu'il me semblait que pour moi c'était un groupe pour Midinette, tu vois, quand le truc est sorti, je sais pas, est-ce que c'est vrai,
ça
ou pas,
transformé,
oui, bien sûr,
mais ça s'est vite transformé,
oui,
c'est comme si en fait aujourd'hui on avait, alors je vais être ultra violent, mais les Worlds Apart ou les To Be Free, et dans 35 ans on dit putain, mais les To Be Free, mais quel classique, tu vois. En fait, je me dis, les gens qui étaient contemporains, qui ont vu le truc arriver, est-ce que vraiment ils ont perçu le truc autant que ceux d'aujourd'hui?
Faut jamais oublier qu'on vit un âge d'or permanent.
Ouais.
Et que l'âge d'or, par définition, n'existe pas. Comme tu dis.
Il y a quand même des périodes, hein. Je peux t'en citer, il y a quand même des périodes.
Il y a des mecs du hip-hop.
Ouais, c'est ça.
Il y a des golden era, quand même.
Ouais, mais justement, le hip-hop est en train de s'encrouter, dans l'auto-mythification.
Le hip-hop, mais pas le rap.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Oui, complètement.
Parce que si on étend au rap de manière générale, là, au contraire, on n'hésite pas à casser justement.
Oui,
le
et puis c'est un laboratoire de recherche.
Ouais.
Mais, je veux dire, il s'est passé des choses depuis Tupac et Biggie, quoi.
Ah bah oui, bien sûr.
Heureusement. Mais pour revenir à ça, effectivement, les Beatles à l'époque, pour les gens du public, ça allait durer 3 ans.
C'était
un truc.
C'était les yéyés, c'était ce genre de truc, quoi.
Alors les yéyés, c'est en France un tout petit peu après.
Mais c'était effectivement cette même logique.
Effectivement, c'était un effet de mode sur lequel il fallait capitaliser le plus vite possible. Et à l'époque, on sortait 2 albums par an et 4 singles qui n'étaient pas sur les albums en plus de, par an. Donc effectivement, c'était un rythme de production absolument colossal. Il y a des mièvreries des Beatles que je réécoute pas nécessairement avec grand plaisir.
Ouais.
Après, effectivement, il y a un génie du songwriting qui est indéniable, mais qui peut être indéniable aussi chez les gens qui écrivent les morceaux de Taylor Swift, qu'on retrouve chez Dynamite de BTS, qui est un morceau complètement dingue dans la structure. J'ai coutume de dire les arrangements c'est le vêtement qu'on va donner à la chanson, mais au-delà de ça, il faut savoir reconnaître la façon dont une chanson est composée, construite, etc. Il y a encore à l'heure actuelle des gens capables de construire des chansons magnifiques. Après, on aime ou pas le côté hyper.
Là, c'est très industriel maintenant.
Oui, c'est ça, complètement.
Avec les top liners, les machins, les trucs.
Oui, et puis moi j'ai toujours. Je regrette toujours un côté un peu froid de certaines productions. Mmh. Le côté
piste
de chant montée mot par mot, etc.
Chacun s'occupe d'une partie et puis après...
Ouais, c'est ça. Ça a tendance à s'entendre un peu.
Ouais.
J'aime bien l'autotune comme un effet assumé. Mmh. Et je trouve d'ailleurs dommage que les rockers et bluesmen s'y intéressent pas plus.
C'est marrant, ouais.
Mais oui, il y a un vrai truc à faire.
Alors, il y a quelqu'un qui l'a fait. Alors, c'est pas un rocker, un bluesman, mais je pense à Bon Iver.
Bien sûr.
Qui est sur 22 Million, qui est un folk en fait.
Absolument.
Et qui, sur 22 Million, a exploré, alors pas avec l'autotune, mais avec plein de processeurs vocaux, etc.
Bien sûr.
Et c'est un album, je pense, c'est un de mes albums préférés tous les temps même. Je le trouve absolument sublime.
Mais d'ailleurs.
Il y a des mecs qui le font.
D'ailleurs, si on écoute.
Mais c'est considéré comme de l'expérimental.
Oui.
Oui, mais ça l'est pas vraiment.
Ouais.
En fait, ça reste assez accessible.
Si on écoute Yeezus de Kanye West,
ouais.
Je sais pas si on a encore le droit de parler de Kanye West.
Il faut séparer au moins pour cette émission.
Le dis pas jusqu'au bout.
La s'il te plaît.
Pardon.
Mais un titre horriblement prémonitoire qui s'appelle Black Skinhead. Pour le coup, là, c'est purement rock.
Ouais.
C'est la production avec tout qui sature. Enfin, on est dans des séparations qui n'ont pas lieu d'être. Mmh. Donc tout ça pour dire, on aime ou pas certains effets de production, mais au-delà de ça, il y a plein d'artistes actuels qui ont un talent de songwriting qui n'a rien à envier aux années 50 ou 60. L'industrie change, mais l'envie des gens de raconter leur histoire en musique ne disparaîtra jamais de toute façon.
On a évoqué plein de morceaux, plein de groupes. On se fait une petite écoute un peu de suite, là, juste quelques trucs pour illustrer. Je me rappelle plus l'un des premiers trucs. Alors, je retiens, t'as parlé de Dynamite de BTS. Là, ça m'a fait marrer. Donc ça, on pourrait se l'écouter. Éventuellement, un Bon Iver.
Alors, c'est sûr que...
Un truc plus ancien quand...
BTS, on se fait fumer.
On tente le coup, au pire, on le verra en post-prod. On tente le coup.
T'as pas une version comme le Hank Williams avec un orchestre en plus.
Peut-être que ça passerait mieux.
Une version karaoké, tu vois.
Et sinon, un Beatles peut-être intéressant aussi, parce qu'on était, on est passé, on a fait Beatles, BTS, on a parlé de Taylor Swift, comment on pourrait...
Un Beatles que je trouve intéressant, parce que pour moi, c'est de la drum and bass des années 90,
okay.
30 ans avant l'heure, c'est Tomorrow Never Knows.
Ok, écoute...
Avec des samplers à la main, c'est-à-dire des
attends,
machines...
Attends, quoi
j'ai peur maintenant, est-ce que tu acceptes le remaster de 2009 ou pas?
Oui, avec grand plaisir.
Ok, ça, je prends mes précautions.
Mais pour la petite histoire, c'est du sampling avant l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait 4 machines à bande aux 4 coins du studio qui déclenchaient de façon aléatoire.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on entend des fois des effets... on entend une mouette, par exemple, à un moment, c'est le rire de McCartney accéléré.
C'est avant les Beach Boys, parce que les Beach Boys, pareil, ils ont vraiment expérimenté...
C'est à peu près en même temps que les Beach Boys, mais pour moi ça sonne encore plus moderne.
Ok, allez, c'est parti. Tomorrow Never Knows, les Beatles.
Et non, ce ne sont pas les Beatles, mais bien moi, François, le monteur de l'émission. Je suis au regret de vous informer que pour des raisons de copyright, nous ne pouvons pas diffuser d'extrait de Tomorrow Never Knows. J'en profite également pour vous souhaiter une excellente année 2023. Attention, l'émission va reprendre. Merci pour votre compréhension.
Je me souviens encore du moment où j'ai découvert ce titre, parce que c'est pas un single, donc c'est pas un titre connu des Beatles. Il est caché, en fait, en dernier sur Revolver. Et je me souviens du jour où, en rentrant à la maison, je suis tombé là-dessus parce que Revolver avait tourné dans le bus et dans le RER. Et je me souviens m'être arrêté devant la porte de la maison pour l'entendre en entier parce que j'avais jamais entendu un putain de truc pareil, quoi.
C'est pas les Beatles que... Tu vois, tu me dis Beatles, je pense pas à ça, en fait.
C'est vrai? Tu penses à quoi? En fait, c'est tellement varié.
Bah ouais, en fait... Ouais, tu vois, c'est... Je sais pas...
If there's anything that you want...
Un truc, ouais, un peu plus... Un peu plus grand public.
En fait, franchement, bon, je sais pas, Julien est beaucoup plus expert que moi, mais c'est, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, moi, sur les Beach Boys, en l'occurrence, parce que c'est un truc, autant les Beatles, j'avais conscience de la richesse du truc, autant les Beach Boys, j'avais exactement ce dont tu parles. C'est-à-dire, pour moi, c'était le groupe de surfeurs américains qui parle de bagnole, pour les adolescentes.
Hey, Kokomo, quand même, merde.
Ça, c'est pas bon. Ça, c'est leur retour dans les années 80. Ça, c'est
Kokomo,
pas bon.
C'est le point Godwin des fans de Beach Boys.
C'est vraiment mauvais, ça.
Moi, je respecte Tom Cruise, tout
non,
ça.
Non, mais effectivement, à partir de In My Room et California Girls, c'est plus du tout le même groupe.
Et ça, c'est vraiment un truc commun entre ces deux groupes. Et d'ailleurs, qui était à la fois, il y avait une relation d'amour, qui les poussait à se surpasser mutuellement, etc. C'était assez passionnant, leur relation. Mais il y a vraiment ce côté où il y a ça, ce dont tu parles. Mais y a, franchement, si tous les musiciens sont ébahis face aux Beatles, c'est pas, ils ont établi les bases, notamment de leur
bien sûr,
c'est hallucinant.
Oui.
C'est hallucinant. Et même non, en termes d'arrangement, de composition, etc., c'est complètement fou.
Je remets pas en fait en question l'apport à la musique en général d'un groupe comme les Beatles, mais c'est vrai que en tant que non digger sur ce genre de musique, j'ai tendance, moi, à cataloguer très très vite certains trucs en me disant ouais bon ok cool, tu vois, alors qu'en fait
ok super
génial, j'adore.
Si on a convaincu Daz et même quelques auditeurs, quelques viewers, tant mieux, tu vois.
Ouais non mais faudra que j'écoute ouais, je me dis est-ce que c'est pas bien aussi de vivre avec certaines images?
Quand c'est de la caricature.
Et ne pas trop chambouler
non.
ça pour rester
quand c'est de la caricature.
C'est pas un peu un argument raciste.
on pourrait, si on fait d'autres analogies, attention à ce que tu dis, Daz.
Ah ouais, non, mais pas de bautisme dans cette émission.
Est-ce que c'est pas bon d'avoir une conception
de garder ces
deux
clichés
stéréotypes?
Oui.
Laissez-moi penser que les Beatles, c'est un groupe pour midinette.
Non, absolument pas.
On fait un album.
En parlant de groupe pour midinette, BTS, Dynamite.
Allez, vas-y. Belle transition.
Allez. Et respectons les midinettes d'ailleurs.
Mais oui, c'est vrai, c'est vrai.
On a tous en nous une midinette.
Mais je suis bien d'accord. Et on est sur autre chose là.
Il a dit rock'n'roll et Rolling Stone.
Ah, donc c'est rock.
C'est pour ça, tu crois quoi? Allez, j'avance un poil. Ben juste un tout petit peu, qu'est-ce qui te plaît dans ce morceau, Julien? Qu'est-ce que
Jamiroquai?
Jamiroquai, c'est vrai? Est-ce que
pour moi, il y a un côté coffre à jouets des arrangements que je trouve génial. Où vraiment ils ont tout sorti et il y en a plein dans la salle de jeu partout, et dès que tu marches tu déclenches un poète et je trouve ça vraiment chouette parce que c'est assumer le côté gadget de ce style musical et en jouer. Et moi, quand on me présente un gadget bien fait, je suis client.
Ok. Tiens, je remets un petit peu là, je sais pas où on en est.
En fait, il y a une vibe Bruno Mars 3000.
Oh,
hein,
complètement.
Il y a tout.
Ouais.
Bah, tout. La K-pop, c'est souvent ça.
Ils ont pris tout ce qui était dans les charts au moment de la composition.
Ah, c'était marrant, attends, il y a un truc.
Il y a un double clap là.
Pourquoi?
Et pourquoi pas?
Ah, les cuivres qui arrivent? Bon, ok, ils sont faits pleines, je comprends.
Les
le
cuivres.
Oui. Les cuivres.mp3, quand même.
et on se disait, parce que, alors ça, j'avoue, c'est un truc que j'aurais pu mettre en roco. Je mets un petit bon hiver, si vous me le permettez, quand même.
Quitte à se faire défoncer, autant.
Ouais. Parce que je sais plus comment on est arrivé à faire cet enchaînement musical, mais on y est. C'est DLT, écoutez. Et, oh, j'aime tellement tout l'album. Je vais mettre le premier morceau, allez, c'est tant pis. Pas d'inquiétude, la régie, c'est normal si ça glitch, c'est bizarre, des craquements et tout, c'est normal.
C'est de la musique.
C'est de la musique.
Ils sont tous là, Kanye West.
Oui, ils ont collaboré.
C'est pour ça.
C'est une musique qui demande d'être écoutée sur la longueur.
Mais on n'est pas loin de la logique du morceau des Beatles. Hein.
C'est vrai.
Une mélodie centrale et puis des petits machins qui se baladent.
Sur la longueur, 2 minutes 48. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut écouter le morceau en entier en fait, pour prendre sa claque.
C'est pas du Bill Cobham.
À l'heure actuelle, 2 minutes 48, c'est...
Ouais, 2 minutes 48, selon les standards de Ellie à la régie, c'est ultra long.
Et pour avoir conscience un peu du traitement vocal ultra intéressant de l'album, juste un autre extrait rapide sur le début de ça.
Ça, de quelle année, ça?
Ça, c'est récent, c'est 2016.
Ah oui, ok, d'accord. Ah bah oui, d'accord, ok. C'est Daft Punk, un peu.
Non, oh là là. T'es horrible. Ouais, c'est bon, tu m'as dégoûté, j'arrête.
Bah attends, ça va. Écoute, si j'avais dit, c'est Yvette Horner.
Non, mais ça n'a rien à voir. C'est d'une sensibilité incroyablement supérieure. 22 Million, Bon Hiver à l'écouter, c'est un album sublime. Voilà.
Merci.
Mais oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a écouté plein de musiques qui n'ont aucun rapport entre elles? Non, on va reprendre le fil de l'émission. On a compris, je pense, ton amour pour ces musiques. Peut-être avant de switcher sur la deuxième partie, un peu plus du côté préservation, etc., une dernière histoire.
Ouais.
Un truc, une figure, une aventure musicale que tu trouves passionnante dans ces registres musicaux, dont tu as envie de nous parler, dont on pourrait écouter un extrait éventuellement de l'artiste.
Une figure qui, pour moi, mérite qu'on lui accorde du temps, c'est Johnny Cash.
Ok.
Parce que c'est...
C'est pas le moins connu, pourtant.
Oui, mais pas pour les bonnes raisons.
Ok.
Pour moi, Johnny Cash, c'est une histoire de rédemption. Mmh. Et il y a rien de plus beau qu'une vraie histoire de belle rédemption. En gros, Johnny Cash, donc, début de carrière 54, il est sur le label Sun de Memphis avec Elvis, avec Carl Perkins, etc. Il fait partie des pionniers du rockabilly. Ensuite, années 60, il devient une parodie de country comme on peut l'imaginer, comme tu avais peur qu'on écoute tout à l'heure.
Ouais, enfin, peur. Non,
mais en ayant un côté quand même toujours un peu décalé. Ça reste ce qu'on appelle la outlaw country, donc la country hors la loi. Mm-hmm. En gros, c'est un mec qui parle de drogue dans ses chansons, qui fait un concept album sur les génocides amérindiens, alors que aux États-Unis dans les années 60,
touchy, ouais.
C'est quand même un sujet légèrement touchy. Donc pour toutes ces raisons,
il va faire des concerts en prison, etc.
Et alors en 68, donc il devient l'album le plus vendu de l'année devant les Beatles avec le Live à Folsom Prison. Donc première rédemption. Et puis finalement, il devient une auto-parodie. C'est un peu le Dick Rivers américain à l'époque et Dick Rivers d'ailleurs a tenté une rédemption à la Johnny Cash mais c'est une autre histoire.
En reprenant du Nine Inch Nails lui aussi
mais carrément en ayant des visuels en noir et blanc un peu contre-jour, enfin ça sent le DA de maison de disque qui s'est dit mec tu sais ce qu'il te faut, c'est un Johnny Cash. Et donc bref, plus personne pariait sur lui, il s'est fait lourder deux maisons de disques à la suite, etc. Et c'est finalement Rick Rubin qui va le repêcher au début des années 90. Rick Rubin qui à l'époque était le producteur en vue à la fois dans le hip-hop, Beastie Boys, Run DMC, Public Enemy, enfin j'en passe et des meilleurs. Et qui est responsable justement du mashup, enfin de la rencontre Aerosmith, Run DMC, qui est quand même un symbole hyper important en soi, et qui a produit aussi Slayer, qui a produit
les Red Hot,
qui produira les Red Hot, enfin qui est en train de produire les Red Hot, qui produira Tom Petty, System of a Down, enfin Metallica, AC/DC, qui devient avec Johnny Cash le spécialiste des secondes chances. D'où le fait qu'il a produit Marshall Mathers LP 2 de Eminem, d'où le fait qu'il a produit le Ballbreaker d'AC/DC, qui est l'album du retour du batteur Phil Rudd après une dizaine d'années d'absence. Enfin, ça devient donc le producteur qui est capable de voir dans les artistes à côté de leur pompe ce qui a fait leur grandeur originelle et de les ramener à leur grandeur originelle. Et pour Johnny Cash, ce sera l'album American Recordings, qui est en gros un album de ce qui devait être des démos enregistré en guitare voix dans le salon de Robin avec deux micros mais vraiment à l'arrache et finalement ils ont pas réussi à faire mieux que cette formule originale et avec un vocabulaire de chansons extrêmement large et en ça c'est hyper intéressant parce que il y a des chansons à lui, d'anciennes chansons des années 50, des chansons de gospel traditionnelles, une chanson de Tom Waits, une chanson de Danzig, l'ancien chanteur des Misfits, et tout ça en fait fait parfaitement sens sur le même album. Et c'est en ça que vraiment c'est mon petit cheval de bataille illustré, c'est-à-dire que toutes ces musiques là, c'est la même chose. C'est vraiment une question des vêtements qu'on va leur enfiler au moment de les présenter.
Écoute, c'est une magnifique conclusion pour cette partie. Il faut qu'on parle maintenant du côté tu veux qu'on écoute un
on est foutu donc.
Bien sûr, quel morceau tu
et
veux
ben, par exemple Rusty Cage qui est une reprise de Soundgarden.
Allez, c'est parti, on s'écoute ça.
Oui, Rick Rubin produit ses albums très fort.
Faut le savoir.
You wired me awake and hit me with the hand of broken nails.
Donc ça c'est quelle année du coup ?
Alors là on est sur le deuxième album avec Rick Rubin, donc il y a déjà un groupe derrière. De mémoire on doit être en 96, quelque chose comme ça.
Ouais, je vais vous dire ça.
Parce que c'est vraiment
96, bien mais on sent qu'il a sa voix d'un peu de vieux déjà.
Toujours.
Ouais. Par contre, en termes de
Pierre Chevrotant,
au niveau instrumentalisation, etc., ça reste
classique.
Ouais, ils essayent pas du tout de marier des nouveaux trucs.
Ah non.
C'est du Johnny Cash, c'est vrai. Ouais. Okay.
Non, c'est que des vrais instruments dans pièce. Il y a pas de
tentative,
pas de gadget, pas de décoration,
un plugin bizarre sur Cubase.
Rien. Ouais. Non, tout est dans la pièce, mais voilà, tout est dans la voix de Cash et la manière de la présenter.
Mais alors, moi, la question que j'ai, c'est pour ces artistes qui sont un peu fondateurs d'un courant musical, quelle est la volonté pour eux de revenir pour au final faire la même chose que ce qui les a fait connaître ?
Alors, pas exactement, justement.
Ah, ok.
Là, on est sur un morceau de Soundgarden.
D'accord.
Donc, concrètement, il aurait pas pu le faire avant.
Ça, pour vous, c'était grunge ?
Non, mais c'est une reprise d'un groupe de grunge.
Ah oui,
d'accord.
Morceau
grunge,
okay. Ah oui, donc, ok.
Donc, moi, je trouve ça fascinant qu'il soit capable d'apporter son éclairage
sur un
morceau contemporain. Et d'ailleurs, il y a un.
Oui, mais un morceau contemporain qui, quelque part, part de ce qu'il avait fait. Donc, c'est un peu le film tiré du jeu, tu réduis film, tiré du jeu, tu vois.
Non, justement.
D'accord.
Justement, si t'écoutes l'original de Soundgarden,
ce qu'on va faire tout de suite, je suis en train
c'est,
de chercher.
C'est que des mesures impaires. Au niveau de la mélodie vocale, c'est pas exactement ce qu'il fait.
Ouais.
Donc il y a une vraie appropriation. On a un peu l'impression que du coup le morceau de Soundgarden devient une reprise d'un original imaginaire, comme
oui,
était celui
ouais,
de Johnny Cash.
Cash. Ouais.
Allez, on s'écoute.
C'est vrai que dans ce sens-là, ouais, en fait, c'est pas commun que ça soit les anciens
oui,
qui prennent les nouveaux.
Hop, Soundgarden, Rusty Cage. Donc l'original de ce qu'on vient d'écouter, Johnny
c'est
Cash.
Ça.
Allez les gars.
Elle est bien sa wawa enclenchée.
Ah, ça donne bien le côté nazi hier. Hein.
J'adore.
Ah ouais.
Et tu vas voir le chant, c'est rien à voir.
J'avance un poil.
Ah oui, d'accord. Okay.
Voilà donc le morceau que reprenait Johnny Cash.
Oui, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est marrant. En fait.
C'est ça, et il reprend One de U2 dans une version qui est infiniment plus belle que l'original. Hurt de Nine Inch Nails
ce
dans
qui est
une
le grand
version
classique,
qui est
sublime,
qui est tombé par terre. Mmh. Et tout ça parce que effectivement, dans chaque note de sa voix, on sent toute la vie de galère qu'il a traversé, quoi. Il y a un truc magnifique là-dedans. Et il y a un petit morceau secret pour ceux qui aiment bien diguer le Johnny Cash sauvage. il a participé à un tribute à Willie Nelson avec un morceau qui s'appelle Time of the Preacher. Okay. Et il est accompagné par, de mémoire, Kim Thayil, justement, de Soundgarden, et Chris Novoselic de Nirvana.
Okay.
Donc une manière comme ça de rendre l'appareil de la part de la génération grunge en rejoignant un hommage de Johnny Cash à Willie Nelson. Les deux étant des countrymen classiques, le fait d'amener des mecs pour faire du grunge derrière, il y a un côté génial.
Il m'a complètement convaincu avec son idée que tout est mélangé et tout ça.
Bah, justement, la question que j'avais moi, c'était... parce qu'on a plutôt tendance à dire que les nouveaux artistes essayent de brûler leurs idoles et de pas trop avoir une filiation, notamment quand on parle de grunge,
ouais.
Où les mecs arrivaient. Enfin, pour moi, la posture du grunge, c'était justement de dire hey, fuck ce qu'il y avait avant.
Mais ils avaient d'autres idoles en fait, quand même.
Ouais, non, mais de se dire, tu vois, parce que un mec de Nirvana ou de Soundgarden qui fait un morceau avec Johnny Cash, c'est comme si. C'est comme si MC Solar, il s'était dit tiens, je vais bosser avec Phil Barnet, tu vois. Et alors,
je sais pas.
C'est un peu dur. Parce que,
ouais, exactement. Julien. En fait, c'est pas brûler les idoles, c'est rappeler à un style qui se fatigue à quel point il bandait dur quand il était jeune. Et pour ça. Si on prend Cobain, qui est un très bon exemple, Cobain était fan de, bon, évidemment de Led Zepp, comme tout le monde, mais était fan des Beatles, et du songwriting de John Lennon, était fan de Led Belly, qui est un artiste de Delta Blues, dont il a repris, My Girl, Where Did You Sleep Last Night sur l'Unplugged, qui à l'origine d'ailleurs était Black Girl, Where Did You Sleep Last Night dans la version Led Belly. Enfin, c'est tout simplement une réaction au glam metal des années 80,
ouais, qui est devenu FM,
voilà, ouais. Qui est devenu une parodie de lui-même avec le spandex, les cheveux, etc. Alors à l'heure actuelle,
c'est plus eux qui le brûlent que oui, leurs idoles personnelles. Ouais.
À l'heure actuelle, on se branle sur Motley Crue parce que tout le monde trouve ça génial, etc. Déjà, faut pas oublier que c'était un peu de la merde. Mais
comme il l'a lâché comme ça mine de rien. Continue, vas-y.
C'est bon, c'est pour
mais Tommy. Surtout, c'est un style qui, de la même manière que le rock progressif des années 70, à partir de trois caps dans le groupe, c'était douteux. Et à partir du moment où le claviériste peut plus sortir de scène parce qu'il est entouré de claviers, il y a un problème. le glam metal en était arrivé à ce point-là de d'auto-importance où il y avait besoin d'un mec pour rappeler que bah
ouais, y avait autre chose avant,
c'est pas ça le rock quoi.
Ouais, d'accord. OK.
Julien, on passe à la deuxième partie parce que je sais qu'après tu vas être pris pour parler transport par le
c'est vrai.
Donc essayons d'avancer un poil, de toute façon ça va être plus court certainement.
Hein je sens les
crois à moitié
moi.
En le disant mais on va essayer. Après c'est toi qui te retrouves dans
t'es
la merde.
T'es capable d'être court quand tu parles. Ouais.
Sur cette idée voilà, deuxième partie, cette idée de préserver c'est quasiment un travail de mémoire en fait d'une certaine manière que tu fais parfois. Non, c'est pas ça, c'est
l'archiviste.
C'est un peu trop.
Ouais, disons que en tant que arrière-petit-fils de déporté, le côté travail de mémoire pour du rock'n'roll, ça me paraît un peu
moi, ça
un peu exagéré.
Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que la question de la mémoire, elle peut toucher effectivement. Ça peut être l'immigration, ça peut être des drames type un génocide, ça peut être la mémoire ouvrière, le travail, etc. En fait, et la musique, elle cristallise aussi des questions sociétales, des questions lourdes, importantes, etc. Et que en préservant parfois certaines musiques, c'est aussi cette histoire-là qu'on préserve.
Je suis d'accord, mais c'est pas nécessairement ce que je fais.
Ouais.
C'est-à-dire que je me méfie aussi beaucoup de la musique comme outil politique. Mmh. Même dans un bord avec lequel j'aurais tendance à être d'accord, je préfère me méfier. Les moins bons albums de James Brown, c'est ceux qui étaient créés de façon politique. La musique est intéressante quand il y a quelque chose à dire à l'origine et qu'on fait la...
Avant la récupération, tu veux dire.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Pour moi, un artiste engagé parfait, c'est Sly and the Family Stone, par exemple. Où c'est pas directement lié à l'actualité directe ou à des groupes précis, mais où c'est des considérations générales qui, comme par hasard, rejoignent les considérations. Ou pour prendre un exemple plus blanc, parce que je suis toujours pas à l'aise pour parler des combats des autres, mais même si c'est nos combats à tous, on va pas débattre. Mais Dylan, par exemple, parle de topical songs, donc les topical songs qui sont des chansons liées à un événement bien particulier. Par exemple, Hurricane, qui parle de, du boxeur Hurricane Carter, qui a été emprisonné pour un vol à main armée qu'il a jamais commis.
C'est ça, j'ai entendu que c'était un peu plus, on ne sait pas exactement.
En tout cas, on va garder cette version-là, puisque de toute façon, on s'en fout.
Oui, absolument.
Mais effectivement, il a fait une chanson qui s'appelait Hurricane, qui parlait directement de ça. Donc ça, on est dans le topical song. Mais à l'inverse, une chanson comme Blowing in the Wind, chaque phrase de Blowing in the Wind peut être adaptée comme on veut. C'est ce côté écriture biblique en anaphore où on peut mettre ce qu'on veut derrière. Ou un morceau comme Masters of War qui date de 63 et qu'il a rechanté au moment de la première guerre du Golfe et où ça collait parfaitement. Mmh. Et moi, c'est en ça que la musique m'intéresse. Mais bref, tout ça pour dire que je dirais pas devoir de mémoire, je dirais volonté volonté d'exciter les gens. Tout simplement. Et c'est en ça que c'est vraiment la continuité de ce que j'expliquais il y a quelques minutes. C'est juste une manière de donner envie aux gens d'écouter de la musique et de leur faire découvrir des choses qui seraient pas naturellement allés voir d'eux-mêmes. Par exemple, j'attends ta question, mais j'ai peur d'oublier.
Ouais, vas-y.
Par exemple, dans une vitrine sur la Les Paul, j'ai envie de parler de Leslie West, de Mountain, qui est pas forcément un guitariste très connu, mais c'est à cause de lui que Keith Richards utilise une Les Paul Junior. Okay. J'ai envie de parler de Mark Bolan de T-Rex, qui est pas aussi connu que Bowie en glam, mais qui est hyper important aussi. J'ai envie de parler de Rosetta Tharpe, encore une fois, parce que c'est important de ramener des femmes dans le débat aussi, parce que c'est une histoire qui a très souvent été dite d'un seul genre et d'une seule couleur. Donc il y a
C'est une volonté de parler des underdogs, en fait, des oubliés.
Toujours,
un petit peu.
Bien sûr. Ouais. Mais parce que encore une fois, évidemment, on parle de Slash et de Jimmy Page et d'Eric Clapton, mais les gens ont pas besoin de moi pour ça.
Ouais.
À la limite, je peux leur faire découvrir l'album de Clapton qu'ils ont pas écouté, qui est super, mais ils m'ont pas attendu pour découvrir ça. Alors que s'ils écoutent Electric Warrior de T-Rex en rentrant à la maison, là, j'aurais gagné quelque chose.
Justement, on peut surprendre le public en mettant en avant des choses qui sont un peu moins populaires, moins connues, etc. T'arrives-toi encore à être surpris
tout le temps?
Mais pourtant, parce que l'histoire du rock en particulier, elle est documentée. Il y a même des métiers qui sont nés presque de ça, le rock critique, etc. C'est une vraie culture. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, écrites, etc. T'arrives encore aujourd'hui à découvrir des choses, à être surpris?
Bien sûr. Comme disait Zappa, la rock critique, c'est des gens qui ne savent pas écrire, qui écrivent sur des gens qui ne savent pas chanter pour des gens qui ne savent pas lire.
Absolument.
Donc ça résume tout. C'est vrai que en général, la rock critique, c'est navrant.
Ouais.
Il y a un côté hyper grégaire des références. Tout le monde parle des mêmes albums, des mêmes artistes. Combien de fois on va nous sortir que Robert Johnson a influencé les Stones? Oui, c'est vrai, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. En quoi, pourquoi ça fait sens? Qu'est-ce que ça représente pour un gamin britannique de 1961 d'écouter un mec du delta du Mississippi de 1936? Enfin, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Faut essayer d'être intelligent quand on le fait.
Et tu penses qu'il y a une part du travail qui n'a pas encore été faite?
Mais énorme.
Ok.
Énorme et chacun le fait à sa manière et de la même manière que on peut encore lire de la littérature du 17e ou du 18e à l'heure actuelle, même s'il y a des milliers de thèses qui ont été faites sur Shakespeare, on peut encore se le prendre dans la gueule.
Parce que si on prend un exemple, Julien, il a sorti un bouquin qui s'appelle Woodstock Live. Donc tu reviens sur Woodstock. Beaucoup de choses ont été dites sur Woodstock.
Bien sûr.
Il y a des milliers de documentaires, l'événement était même filmé aussi.
Complètement.
Bon, il y a de la ressource. En quoi c'était pertinent de sortir encore aujourd'hui? Parce qu'il est pas vieux, ton bouquin.
Il est sorti pour les 50 ans, de manière parfaitement opportuniste.
Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur Woodstock?
En fait, mon propos avec ce bouquin, c'était de replacer la musique au centre.
Okay.
C'est-à-dire que Woodstock, on parle tout le temps des gens à poil,
peace and love,
de la drogue et du mouvement hippie. Alors certes, ça en fait partie, c'est intéressant, mais il y a plein de choses qu'il est important de rappeler. Alors déjà, les gens à poil, oui, finalement, qu'est-ce que ça... on s'en fout.
Comme un rock en scène, finalement.
Oui, c'est ça, exactement.
Ah, le parallèle est bien, très bien.
Il y en a.
Avec les viols en moins.
Ouais, c'est vrai.
Non, Woodstock, faut pas oublier, par exemple, que c'est un festival qui était prévu pour 50 000 personnes et il y en a eu 500 000. Donc, si on l'analyse avec notre regard actuel, c'est un festival où il n'y avait pas les chiottes pour les gens qui étaient là, où il y avait une sonorisation pour 50 000 personnes. Donc, il y a en gros 9 personnes sur 10 qui n'ont rien entendu, rien vu, puisqu'il n'y avait pas d'écran géant. Ouais. La scène n'était pas haute. Enfin, faut revivre ça dans le contexte. Et puis, au-delà de ça, on parle jamais des artistes qui représentent Woodstock. Parce que Woodstock, c'est un changement de garde. C'est-à-dire que Woodstock, il y a eu Woodstock en été 69. Fin 69, il y a Altamont, qu'on appelle le evil twin de Woodstock.
Parce que les Stones auraient été dégoûtés de pas avoir été à Woodstock et auraient monté
voilà.
ça, quoi, ouais.
Et parce que personne prenait Woodstock au sérieux. Et donc, les Stones étaient genre, mais c'est quoi ton festival? On s'en tape. Et donc, il y a eu la réponse à Woodstock sur la côte ouest, puisque Woodstock était sur la côte est, organisée par les Stones sur le racetrack,
le champ de course.
Le champ de course automobile de Altamont, mais avec les Hells Angels pour faire la sécurité, super idée.
Est-ce que ça tourne au fiasco?
Bière, deuxième super idée.
Ça tourne au fiasco?
Tel fiasco qu'il y a eu un mort quand même. Donc là, c'est la fin définitive des années 60. Et en fait, on peut pas dire que Woodstock est l'apogée du Peace and Love à partir du moment où, même pas 6 mois après, il y a Altamont. Mmh. En fait, le verre est déjà dans la pomme et Woodstock, c'est déjà le début de la fin. Et c'est ça qu'il est intéressant de voir. Même musicalement, c'est la fin du collectif et le début de l'individualisme. C'est la fin des Quicksilver Messenger Service, Grateful Dead, tous ces collectifs, et le début des hyper-égos comme Santana, comme Johnny Winter, le guitariste branlomane. C'est à Woodstock qui fait son apparition. Alvin Lee, 10 Years After, il se branle pendant 10 minutes et c'est ça qu'il garde pour le film. Et c'est vraiment ce changement de la garde que je voulais raconter dans ce bouquin.
En plus des bouquins.
Et encore une fois, pardon, encore une fois, donner envie aux gens d'écouter de la musique. J'insiste lourdement dans ce bouquin sur le fait que, pour moi, le meilleur concert de Woodstock, c'est le concert de Sly and the Family Stone, qui pourtant est pas un artiste qu'on associe à Woodstock. Le concert de Hendrix, par exemple, est à chier. Il est entre deux formations à l'époque. Il joue à 9h du mat le lundi, alors qu'il devait jouer en tête d'affiche le dimanche soir, mais c'était tellement mal organisé que, du coup, il y avait tout le monde qui était parti au moment où il monte sur scène. Enfin, faut écouter Mountain, faut écouter Sly and the Family Stone. C'est vraiment ces artistes-là où il y avait un vrai enjeu de leur venue à Woodstock.
En parlant d'histoire, alors tu le fais à travers les bouquins, mais tu participes aussi à une aventure que je trouve intéressante. Et au cas où il y a des gens qui ne connaîtraient pas, ça peut être intéressant, c'est Sonorium.
Oui.
Tu peux nous parler un peu de ce que vous faites avec Sonorium?
Alors, Sonorium,
il n'y a pas que toi, mais toi, en tout cas, tu collabores quand même régulièrement.
Bien sûr, ouais, tout à fait. Bah, Sonorium, c'est une fierté personnelle, mais que je mérite pas du tout. Mmh. C'est-à-dire que je me l'attribue par par capillosité, ce qui est un comble quand on n'a pas de cheveux. Mais bref, c'est une ancienne élève à moi d'un cours à Sciences Po qui a monté cette boîte, qui a monté une première boîte qui a ensuite fusionné avec une autre boîte de ce qu'on appelle le slow listening. Et en gros, donc Sonorium, c'est de l'écoute d'albums de A à Z, avec le meilleur son possible, donc avec des fichiers haute résolution et avec du matos hi-fi très haut de gamme, et dans des endroits à chaque fois qui s'y prêtent, donc des lieux insolites ou des lieux où les gens peuvent se poser. On en a même fait dans la salle de conférence du Grand Palais, ce qui était une fierté absolue de pouvoir parler de Freddie Mercury dans l'auditorium du Grand Palais. Et avant l'écoute, il y a une conférence pour replacer l'album dans son contexte. Donc en gros, je fais, quand c'est moi, il y a d'autres intervenants évidemment, quand c'est moi, je fais une intervention de 25-30 minutes où je raconte l'enregistrement de l'album, ce qu'il faut écouter sur tel ou tel titre.
C'est entrecoupé, parce que donc il y a une écoute intégrale de l'album, et c'est entrecoupé par des interventions?
Surtout
c'est plutôt...
pas. Non. Okay. Je fais mon intervention, on écoute l'album sans le couper après, okay. Et à la fin, il y a un question-réponse. Okay. Je trouve vraiment cette temporalité hyper importante.
Ah, c'est marrant comme concept. Hein.
Et il suffit d'aller sur Internet et tout le monde peut s'inscrire. Il suffit de suivre les affaires. Il y a plein de styles très différents qui sont abordés, plein d'albums très différents.
Ouais, j'ai vu qu'il y
avait
une conférence sur Straight Outta Compton de NWA.
Absolument.
Que je me suis éclaté à faire d'ailleurs.
Ouais, j'imagine. Ouais.
Mais effectivement, ouais, c'est c'est une bonne manière, bah, tout simplement de donner envie aux gens d'écouter d'autres musiques à partir de ce qu'ils connaissent déjà, et puis de les inciter à prendre le temps de la musique.
Oui, c'est marrant parce qu'en fait, on en parle régulièrement, nous, dans cette émission, que la consommation de la musique a changé.
Bien sûr.
Et qu'écouter un album d'un bout à l'autre, c'est quelque chose que très peu de gens font, finalement.
Nous-mêmes, qui sommes fans de musique, c'est pas tous les jours qu'on se pose sans le téléphone ou sans autre distraction extérieure pour juste se perdre dans un album. Et moi, c'est un truc que je me force à faire. Le vinyle, au-delà du côté sonore, parce que c'est plus un totem qu'autre chose, mais le vinyle aide à ça pour moi. Parce qu'il y a un côté,
cérémonial,
au bout d'un quart d'heure, t'es obligé de tourner de toute façon. Donc si t'as pas fait gaffe, ça tourne dans le vide.
C'est vrai que c'est une excellente idée, Sonorium. C'est-à-dire de ritualiser ça avec un côté spectacle, un lieu précis, un événement, en fait, comme tu vas au cinéma ou un truc comme ça. Ouais. C'est une bonne idée de faire ça avec la musique, effectivement.
Mais c'est ça qui est marrant, aussi. C'est que on parle du cinéma, on est tous habitués maintenant à avoir des blockbusters qui font 3h30 pour raconter pas grand chose, mais les gens ont pas forcément.
Tu penses à Avatar 2 ou
Alors je l'ai pas encore regardé, mais je m'attends déjà au pire parce que j'ai vu le 1. N'allez pas voir ça. Et du coup, je me dis comment on peut arriver là, sociétalement, à accepter des films qui racontent rien de 3h30, mais se dire ah non, j'ai pas le temps d'écouter un album de 49 minutes, tu vois. Comme si vraiment le fait que ça soit du pur audio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le support vidéo, ça invalide la démarche.
Ouais, justement, tu réponds à ta propre question.
Mais c'est fou, en fait.
Le visuel, c'est hyper important.
Ouais.
C'est pour ça que
Bah
oui, c'est ça. C'est pour ça que le vinyle est chouette, parce qu'on a le visuel en grand, et on peut se perdre dans ce visuel-là. Mais justement, les films de 3h30 que tu mentionnes, il y a un effet visuel marquant toutes les 10 minutes à peu près, pour être sûr qu'on s'endorme pas. Donc effectivement, c'est 3h30 certes, mais en fait c'est comme si tu bingeais des vidéos sur YouTube, parce que c'est des petites unités très impressionnantes à chaque fois.
Mais c'est aussi une éducation au visuel.
Bien sûr.
Parce que à une époque on avait que la radio, on pouvait autour de l'audio se réunir, se poser un moment et ne faire qu'écouter la radio. Donc il y a aussi un truc qu'on peut retrouver mine de rien.
Complètement.
Certainement. Mais le visuel est une obligation.
Il y a plus personne qui fait ça, tu vois.
Non, mais ça peut se retrouver.
C'est une démarche.
Ouais.
Et regarde, mine de rien, les événements Sonorium sont systématiquement complet.
Ouais.
C'est
il y a une attente
là-dessus.
Et regarde la fiction dans le podcast. La fiction dans le podcast, elle demande une écoute plus active.
Bien sûr.
Et il y a des gens qui adorent ça.
Et ça cartonne. Ouais, complètement. Mais au-delà de ça, même moi j'ai été hyper agréablement surpris par le public de Sonorium. Ouais. Je m'attendais à avoir que des boomers.
Ouais.
En fait, c'est hyper varié.
Ouais.
C'est tous les âges, tous les genres et tous les horizons sociaux. Et alors évidemment ça varie, c'est pas le même public pour Jeff Buckley ou pour NWA justement, mais c'est pas aussi prévisible qu'on pourrait le penser, et c'est ça que je trouve hyper encourageant.
Julien, une autre manière de préserver, de mettre en valeur ces musiques, c'est de les jouer. On va boucler un peu la boucle, on avait commencé en citant tes groupes, toi tu joues cette musique aussi. C'est alors suivant les albums, c'est différent, etc.
Je joue ma musique.
Oui, mais grandement inspiré en tout cas par ces musiques.
Ouais, mais j'ai vraiment cette volonté de pas faire de la musique de conservateur de musée. Ça ne m'intéresse pas, encore une fois, de retrouver le son de machin pour mes albums, d'utiliser tel micro parce que on le voit dans le film sur Otis Redding en 67. Enfin, vraiment, c'est pas ça mon but. Moi, j'ai des choses à dire et j'essaye de les dire en musique. Alors,
mais quand on écoute la musique, l'affiliation est claire souvent.
Bien sûr, mais parce que c'est ce avec quoi j'ai grandi, et c'est ce que j'aime. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est un véhicule au service de ce que j'ai à dire, et j'espère que ça sonne pas trop poussiéreux. Ouais. Je suis vraiment très très consciemment vigilant là-dessus. De ne pas faire de même par exemple un groupe comme les Black Keys, je me méfie. J'ai peur de sonner comme les Black Keys parce que pour moi les Black Keys c'est l'exemple par excellence d'un groupe qui fait de la musique à l'ancienne en la produisant un peu moderne. Mais avec un songwriting qui est pas toujours passionnant. Donc tout ça pour dire, et en m'étant mis tous les fans des Black Keys à dos, salut les gars, tout ça pour dire qu'effectivement je tiens vraiment à ce que ma musique ne soit pas une photo noir et blanc dans un album couleur, quoi.
Et cette démarche, elle est facile à vendre?
Non.
Ouais.
Non, mais je cherche pas à la vendre. Enfin, très honnêtement, je cherche pas à la vendre.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai la chance de vivre de plein d'autres choses. J'ai ma famille dans ma chouette maison, donc j'ai aucune envie d'être sur la route 50 jours par semaine ou même par an. Mmh. Donc moi, faire une quinzaine de concerts par an et être écouté par 1000 personnes en tout et pour tout, ça me va très bien.
Et au-delà de ton expérience à toi, tu penses qu'il y a quand même un créneau pour ces musiques encore, de vivre en musique live, tu vois, même réinterpréter à la manière d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Ouais. Il y a des choses qui se font.
Ah mais plein.
Ok.
Mais comme tout à l'heure actuelle, c'est juste une question que les gens le trouvent. Mais j'ai envie de dire, tout existe et les gens trouvent ce qui leur correspond. Mmh. Et j'ai la chance que certaines personnes m'aient trouvé. Et il y a quelques personnes qui me suivent depuis longtemps et qui écoutent tout ce que je produis, qui même soutiennent ce que je produis, puisque je passe systématiquement par du crowdfunding pour faire mes albums.
C'est une démarche intéressante qui se fait de plus en plus d'ailleurs.
C'est une démarche qui d'une part me permet d'être indépendant dans ce que je fais, donc de suivre ma vision en me foutant de la vendre ensuite et de la rendre vendable. Mmh. Et d'autre part d'avoir la garantie que des gens vont écouter ce que je suis en train de faire pendant que je le fais. J'adore en studio me dire là ce que je suis en train de faire.
Il y a vraiment des gens
au moins 120 personnes qui vont l'écouter. Si ce n'est plus, 120, ça me va très bien. Mmh. Mine de rien, 120 personnes, si je les croise un jour dans ma vie ou s'ils viennent au concert, ce sera génial.
Ouais.
Faut jamais oublier que les statistiques sont des vrais gens aussi. Quand je fais une vidéo et qu'elle est regardée par 1800 personnes, je me dis putain, par rapport à PewDiePie, c'est pas bien.
Ouais.
Mais je me dis finalement, si 1800 personnes ont passé 3 minutes 50 à écouter ma musique, voire à la trouver bien pour la moitié d'entre eux, finalement, tu représentes ça dans une salle, c'est génial.
Ouais, bien sûr.
Et j'oublie jamais qu'il y a des vrais gens derrière l'appréciation que les gens me manifestent de temps en temps.
Daz, avant qu'on conclue et qu'on passe aux recommandations, t'avais des points que tu voulais aborder éventuellement, une question
encore. Non, en fait, je trouve ta vision intéressante et je me dis, ça doit être super dur de pas se faire mettre soi-même dans une case par d'autres.
Bien sûr.
Qui vont, par exemple, te taxer de musicien vintage ou ce genre de truc.
Bien sûr, évidemment.
Tu vois, comment en fait tu peux t'assurer que on te mette pas contre ton gré dans tu sais, comme en fait moi je vois par exemple tu vois les rassemblements de bikers ou ce genre de truc avec des mecs qui ont des vestes de motorcycle club, tu vois, avec le logo, les machins, les trucs, les Sergeant at Arms, etc. Et je me dis, est-ce que ces mecs-là, ils ont vraiment l'impression d'être des Hells Angels? Parce que autant quand tu vois passer les Hells Angels, par exemple, à Montréal, où c'est des vrais gangsters, tu fais OK, j'ai compris, tu vois. Mais quand moi, je vois des bikers, genre les nomades ou les trucs comme ça, dans le 94, je peux pas empêcher de me dire, quand tu te retrouves avec tes potes, c'est comme si vous alliez un peu au bal costumé, tu vois, tu peux pas.
Et quand tu vois le prix d'une Harley à l'heure actuelle, c'est clairement un truc de cas supérieur.
C'est un truc de dentiste, en fait, tu vois.
Oui, c'est ça. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça et la réponse, c'est que je peux pas. C'est-à-dire que je pourrais jamais empêcher les gens de me voir comme un musicien de blues avec tous les clichés dégueulasses que ça peut colporter.
Mais est-ce que, par exemple, si t'as quelqu'un qui te dit, voilà, moi, je fais un événement autour de la voiture des années 60, et j'aimerais bien que tu viennes sonoriser, tu vois, faire un petit showcase ou un truc comme ça. Est-ce que toi tu dis, écoutez les gars, je vous kiffe, mais foutez-moi la paix, ou est-ce que tu dis, bon, let's go, c'est de la musique, je fais de la musique.
Deuxième solution, définitivement.
Ouais. Tu veux vraiment pas être.
Il y a rien que j'aime autant que de jouer de la musique.
Ok.
Donc s'il y a des gens qui sont prêts à l'écouter, quelle que soit leur motivation, ça me gêne pas.
Ouais.
Mais j'ai toujours le punk qui sommeille en moi, qui se réveille à la moindre manifestation de ce genre de côté un peu
entre soi et
par exemple. Enfin, je cherche tout. Enfin, c'est même pas que je cherche, c'est que je le fais sans le faire exprès, et ce qui m'a probablement coûté une carrière musicale qui aurait pu toucher plus de gens par ailleurs, c'est que je ne peux pas m'empêcher d'être un sale gosse. Par exemple, avec les Angels, un de nos premiers concerts, c'était dans une concentration de bikers, justement, et on a décidé le matin même, parce qu'on faisait un concert dans un bar le soir, la veille au soir, donc le matin on se réveille la gueule dans le cul au petit déj avec les croissants, et je regarde les deux autres, je leur dis, ce soir on va leur jouer du Tom Jones. Et du coup, dans la journée, on a appris It's Not Unusual de Tom Jones.
Ah ouais.
Et on leur a sorti le soir même et les mecs ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon.
Ouais.
Et moi, c'est ça que j'adore. Et
c'est le contre-pied, c'est
C'est ça. Ouais. Et il y avait une stripteaseuse juste avant et du coup moi j'y suis allé de mon striptease après évidemment. Alors, ils ont pas eu exactement la même réaction mais voilà et je tiens à ça et en fait je me méfie autant de la concentration de bikers que des fans de Sonic Youth qui connaissent tout à la musique et qui viennent me voir en analysant les changements d'accords. Les deux me font autant chier en fait.
Ouais.
Et vraiment la seule chose qui m'intéresse c'est de jouer de la musique et qu'éventuellement les gens aient envie de l'écouter.
OK. OK, belle réponse.
Est-ce que tu as pensé à une petite recommandation?
Mais grave,
je sais que c'est un rituel dans
mais
DLT.
Grave.
On termine avec des petites recos. Tu veux commencer? On commence comment on fait, Daz?
Bah, l'invité.
L'invité.
Allez,
ça marche.
Alors, c'est une artiste américaine qui s'appelle Madison Cunningham.
Ok.
Qui en est à son deuxième album et le titre c'est Hospital. C'est une artiste qui commence à se faire bien voir aux États-Unis, qui a fait le Jimmy Kimmel Show récemment notamment, qui a fait le Tiny Desk, NPR, etc.
Okay.
Toutes ces choses qui montrent que ça bruisse.
Okay.
Et qui jouait au Point Éphémère il y a deux semaines à peu près.
Oh, tu l'as vu?
Et, bien sûr.
Okay.
Je l'ai même interviewé.
Okay.
Et je me suis éclaté. Et ça fait partie de ces concerts où il y a un vrai enjeu. Parce que première tournée européenne en tête d'affiche. Avant ça, elle avait tourné en ouverture de Andrew Bird, qui est un artiste passionnant aussi. C'est une chanteuse guitariste qui joue pas comme les guitaristes normaux,
okay,
qui écrit pas des chansons comme les chanteuses normales. Enfin, il y a un côté, c'est plein de choses qu'on connaît. Il y a du Johnny Mitchell là-dedans. Il y a du Jeff Buckley. Mais en même temps, c'est pas exactement tout ça. Et je trouve ça passionnant. Et c'est bien que, enfin, il est important que le milieu du rock s'ouvre aux femmes aussi et qu'on ait l'autre partie de l'histoire qui soit racontée.
Et je vois qu'elle a un certain succès en streaming.
Bien sûr.
C'est très correct.
Ah, je l'ai pas découverte, ouais. mais en France, ça commence à
prendre.
Eh ben, on écoute ça. C'est Madison Cunningham, Hospital. Elle est très cool là. Sur le refrain, on voit le côté de John Mitchell à fond.
Grave,
ouais.
Bien sûr.
Non, et puis, très bien.
Enfin, let me make a mistake, it will pay for its own cost, cause regret is like an infant, it won't let you sleep it off. Qui écrit des paroles aussi bien construites?
Tu les traduis pour ceux qui...
Non, aucune chance.
Non, il faut pas. Okay.
Démerdez-vous. Apprenez l'anglais, apprenez la culture anglaise. La traduction, c'est une trahison. Non, mais c'est vrai.
C'est dur.
C'est mon métier, mais c'est vrai. Non, traduire un poème, c'est horrible. Mm. Mais voilà, c'est quelqu'un qui écrit des textes qui valent largement les grandes références des années 60. Donc, voilà, merci.
Très bien. Madison Cunningham. Daz?
Ouais, nous sommes en décembre 2022.
Oui.
Cette année,
putain, déjà
c'est donc les 30 ans d'un album qui est sorti en décembre 1992, qui est The Chronic de Dr. Dre.
Ah, ouais.
Et comme on a parlé de N.W.A. tout à l'heure, moi, Dr. Dre, ça reste évidemment un très mauvais rappeur, mais un très bon mixeur. Et pour moi, The Chronic fait partie des classiques. Alors, le problème, je crois que...
C'est pas sur Spotify. Attends, sur YouTube, on va trouver, mon gars.
Ouais.
Ça, c'est intéressant aussi, justement. Tous ces artistes qui sont pas sur Spotify,
Ouais,
et surtout et voire même des artistes dont une partie de la discographie n'est pas sur Spotify, mais une partie y est.
Alors,
en termes d'héritage, ça, il y a un côté justement, qu'est-ce que les générations qui apprennent la musique via Spotify vont percevoir de ces artistes-là.
Et ça, c'est un sujet qui moi me touche particulièrement parce que j'avais lu un papier. Du New Yorker ou tu sais plus quoi, qui disait que 98% du Rock'n'Roll Hall of Fame était disponible sur les plateformes, alors que seulement 47% du Hip Hop Hall of Fame, parce que embrouille de droits, de prod,
pas, ouais.
de machin, et qu'effectivement, si tu ne te penches sur la musique que par le biais des plateformes qui ont pignon sur rue, il est possible que t'aies des pans entiers de ta culture qui disparaissent.
Bien sûr. Et pour pousser le truc encore plus loin, 2% du Rock'n'Roll Hall of Fame, faut savoir que le Rock'n'Roll Hall of Fame, c'est déjà la sélection du plus connu. Mmh. Donc si déjà il manque 2%, je te laisse imaginer la partie cachée de l'iceberg. Quoi.
En tout cas, pour ce qui est des... Parce qu'il y a aussi... J'avais fait une vidéo là-dessus. Il y a des batailles parfois d'artistes connus qui refusent même d'être sur les plateformes
dans
le premier
temps. Par exemple, ouais.
Absolument. Ce qui ressortait quand même de mes recherches, c'est qu'ils finissent tous par plier à un moment ou à un autre.
Alors, donc, dans le cadre de Dre, c'est très intéressant parce que, en fait,
ça, c'est en dehors des problèmes de droit. Voilà. Je parlais vraiment de... Quand sciemment les artistes disent « Je ne veux pas passer par ce système
». Il y a toujours pas King Crimson. Il manque des gros trucs.
En fait,
Johnny Mitchell vient d'enlever des
albums. En fait, c'est différent pour Dre parce que ce qui se passe, c'est que le label Defro Records, qui est passé de main en main, a été racheté par Snoop, qui
du coup, ils ont
le back catalogue et Snoop a retiré.
Il y a plus Doggy Style.
Voilà, il a retiré les albums de Defro parce qu'il veut faire des NFT avec.
Ta réponse est intéressante, c'est qu'il y a une partie, mais qui est une partie en général de pirates merdiques, de live semi-officiels. Dans le cas de King Crimson et Neil Young, par exemple, la partie sur Spotify, si quelqu'un découvre ces artistes-là par ce biais-là, il y a aucune chance pour qu'ils accrochent vraiment. C'est un vrai problème.
Mais de toute façon, c'est assez passionnant. Après, quand tu mêles les aspects business, parce que c'est un truc que j'avais pensé peut-être l'évoquer avec toi, mais ça aurait été trop long. Faudrait faire limite un épisode là-dessus. C'est sur la question de la vente de catalogue aussi.
Bien sûr.
Et qui touche beaucoup de grandes stars du rock, etc. Et qui, pareil, complexifie à fond les histoires de business, etc.
Enfin, grave.
On en reparlerait une autre fois. Donc, quel était le morceau d'Az?
Little Ghetto Boy.
Eh ben,
de Dr. Dre. Bon, là, il y a une petite intro que tu peux. Ah là là, putain. Donc là c'est Snoop.
No shit.
1992. Franchement le son il est fou. C'est trop beau. Et tu vois, pour moi c'est la bascule. 92-93, c'est le moment où vraiment le rap, pour moi, devient audible, quelle que soit la période. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas écouter, par exemple, du N.W.A. parce
mais ça,
que
on
ça
est
fait
pas d'accord là-dessus.
Beaucoup trop daté, j'arrive pas. Mais The Chronic, qui sort 2 ans après Straight Outta Compton, alors que tu vois, il y a du raga. Les refrains raga, tout le monde sait que c'est giga daté, mais là, avec du Donny Hathaway samplé par-dessus. La petite flûte traversière.
on est bien.
Ah, voilà, Donny Hathaway qui reprend un morceau de John Lennon dans son album live, le fameux. Tout est dans tout et
tout
inversement.
Tout est lié. Écoutez donc, The Chronic, ça a 30 ans. Voilà. Ça nous rajeunit pas.
C'est vrai. Excellent album. Mais bon, on le sait tous quand même, globalement. Mais c'est bien, c'est l'occasion de se replonger.
Beaucoup de gens qui écoutent du hip-hop aujourd'hui, pour eux, Dr. Dre, c'est 2001. C'est Still D.R.E.
Il a plus marqué 2001, je pense, au Fermat.
Qui est chouette aussi, quand même.
Mais qui, pour moi, est terriblement daté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je préfère écouter The Chronic que 2001, tu vois.
Ok.
Et alors toi, Salman, dis-nous.
Oui, mon cher Daz, eh bien écoute, je fais encore un lien avec une vidéo que j'ai ressortie récemment, où j'ai parlé de 3 styles musicaux qui d'une certaine manière renouvellent la musique de danse, la dance music. Je me suis arrêté sur l'amapiano, sur l'afrobeat et sur le Jersey Club et son pendant Jersey Drill un peu plus récent. Et ça vous parle tout ça ou pas du tout.
On est dans le pointu là quand même.
Pas tant que ça en réalité.
Le Jersey Club quand même, on est dans le pointu.
En tout cas, les termes sont assez explicites.
Oui.
On peut imaginer ce que ça
absolument,
fait.
Absolument. Bon, okay. En tout cas.
On parle de l'île de Jersey, par exemple?
Non, c'est le New Jersey.
Ah, ah, si tu n'y attendais pas.
Ah, ok.
Ah, ah oui, à partir du moment où les loyers à New York permettent plus d'être musicien, le New Jersey.
Ils traversent l'Hudson, les gens, bah oui, bien sûr.
Et pour l'amapiano, parce que ça, c'est ce dont je veux parler aujourd'hui, l'amapiano, c'est un style qui vient d'Afrique du Sud, qui est aussi de la house revisitée. Mais ça, c'est un truc qu'ils savent faire, les Africains du Sud. Ils le font depuis longtemps. Il y avait eu, je sais pas si vous connaissez, le Kwaito, le Gom, la Bacardi, qui sont, c'est une terre de musique électronique, en fait, l'Afrique du Sud. J'ai découvert ça. Et ils reprennent beaucoup de house. Et l'amapiano, qui est un peu la dernière itération en date, c'est ça, c'est cette house avec des instruments assez spécifiques, le log drum notamment, qui est inspiré d'un instrument traditionnel africain, mais qui évidemment, c'est la version FL Studio, en fait, tu vois, du log drum. Donc, ça donne un truc beaucoup plus électronique et beaucoup plus électronique. Et bref, cette musique est passionnante parce que c'est de la musique de danse aussi, mais qui ne tombe jamais dans la facilité, jamais le drop, jamais le etc. Mmh. C'est tout dans la longueur, en s'inspirant de rythmiques africaines, des chants aussi. C'est souvent des langues vernaculaires d'Afrique du Sud, vraiment. Et c'est assez.
Est-ce que tu parlerais de trance?
En tout cas, c'est la danse. On est jamais très loin de la trance dans tous les cas. Bon, je vous mets un.
Donc tu viens de boucler la boucle. En
fait. On avait commencé là-dessus.
Ouais.
On est incroyable.
C'est fort, ça.
Ça, c'est la force de DLT, les gars.
Ouais, ça, c'est l'édito. C'est l'édito, il est très fort.
Et je mets un extrait du morceau qui s'appelle Possible de DB Ngogo, qui est une des grosses stars de l'amapiano. C'est un style qui est en vogue dans le monde entier. Dans les clubs, etc., qui vraiment devient, non pas mainstream, mais qui en tout cas est de plus en plus populaire.
Tu veux dire que les gens cool connaissent, quoi.
Peut-être. Aurel San connaît, il l'a cité il y a pas longtemps.
Très bien. Donc, je vais écouter. Donc, voilà,
Allez, j'avance un poil. C'est très planant, il faut prendre son temps dans ce genre de musical, mais.
Et dit-il en skippant.
Ouais.
Une ambiance un peu Deep Forest. Non, c'est pas vrai. Tu vas rappeler de Deep Forest? Non, on va
pas du tout.
Ouais, c'est normal.
Si, bien sûr.
Ouais.
C'est des rayés et tout. Ouais. Si,
tout à fait. Voilà. C'est ça le log drum, ce qu'on entend derrière moi. Qui marque un peu la basse en fait.
Ah, ça chante en plus,
ouais.
C'est cool.
Ça me parle grave.
Et voilà, et tout le long en fait c'est ça, avec de l'évolution. Mmh. Et jamais cette facilité du drop où serait facile de faire repartir les gens, etc. Mmh. C'est que comme ça.
C'est hyper bien ça.
C'est génial.
6 minutes 50.
Oui. Eh ben, les morceaux sont souvent longs.
C'est un album complet.
Et c'est fait pour danser, mec.
Très bien. Ça,
c'est donc là, c'était le morceau Possible, DB Ngogo, avec plein de gens. Je vais pas les citer.
DB Ngogo, donc DBN Gogo.
Absolument. Et le style, c'est l'amapiano. Tout est globalement cool dans l'amapiano. Allez, jetez un coup d'œil.
Oh là là.
Bon, les gars.
C'est fou quand même, hein. On ressort plus riche hein,
de cette émission.
Mais oui.
Bah surtout qu'on reçoit Julien. T'as vu, il connaît tellement de choses, il est passionnant.
Ah ouais, c'est vrai.
Merci
c'est
beaucoup vrai, d'être vrai. Venu nous voir, Julien.
Ça y est, je suis gêné.
est-ce que t'as une actu, Julien, un truc là tout de suite?
Grave.
Ouais.
Ouais, ouais. Pour ceux qui ont la chance d'habiter à Montluçon.
Ouais.
On joue.
C'est une chance. Du coup.
Ça peut le devenir.
C'est une chance. Ok.
On joue au Guingois le 27 janvier.
D'accord. Et donc puis, toi et ta formation.
Avec Julien Bitoun and the Angels.
Ouais.
Et puis on a un troisième album qui verra le jour peut-être l'année prochaine, peut-être après. Et puis voilà, toujours des vidéos, des podcasts, des photos nues qui circulent. Dans les réseaux, enfin, voilà.
Des striptease dans des rassemblements de bikers. On sait.
Enterrement de vie de jeune fille, tout ça.
Allez, let's go.
On peut te louer, c'est
bar mitzvah, communion, anniversaire, allez, la complète.
Tout a un prix.
Merci beaucoup Daz aussi pour cette
merci
émission.
Merci Salman, merci Julien, c'était très cool.
C'était
merci
très cool. On remercie aussi évidemment la bouclette, on remercie Thomas aussi
cette
de soutenir
paille,
cette émission.
Sûr. Oui.
Merci à tous et puis merci vous qui nous écoutez, qui vous nous regardez sur YouTube. Lâchez votre petit commentaire, votre petite étoile si c'est en audio, je sais pas. Montrez-nous de la force, montrez que vous êtes là. Et comme le disait Julien, on voit les vues et on se dit c'est une personne derrière, ça fait plaisir. Et alors avec le commentaire c'est encore
mieux.
Alors
là, ouais.
On est d'accord, non,
on les voit. Ouais, là, on les voit. Et on les voit.
On compte sur vous. Allez, on se retrouve dans 15 jours.
À l'année prochaine.
Bye bye tout le monde.
Putain, je me fais.
Ah non, on avait dit pas ça.
Bah oui, mais voilà.